Salut tout le monde et bienvenue sur le petit plateau pour un nouveau numéro, hein, un numéro qu'on va bien évidemment ici consacrer au débriefing du Tour de France. Et pour ce numéro, j'accueille Romain qui est un petit peu malade. Et comme vous le voyez, il n'y a pas Alexis avec nous. Alexis est en vacances, mais on a quand même posé quelques questions à Alexis. Donc on va faire la magie du montage, on va faire que vous allez quand même entendre quelques avis d'Alexis sur les 3 semaines qu'on vient de vivre. Voilà, ce n'était pas les conditions optimales pour enregistrer, mais on voulait à tout prix quand même parler après ces 3 belles semaines finalement de Tour de France. Romain, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, moi j'aimerais te poser une question. Alexis nous avait demandé un mot pour décrire le Giro. Si je devais te demander un mot pour résumer ce Tour de France.
Eh bien, salut tout le monde. Damien, j'ai envie de tricher un peu et de te donner deux mots.
D'accord.
Le premier mot, je vais faire un peu de chauvinisme. Les gens qui nous écoutent depuis longtemps le savent, nous sommes belges, ça s'entend, je pense. Et donc, le premier mot, c'est podium. Premier podium d'un Belge en 43 ans. Il y avait eu Jürgen van den Broek en 2010, mais grâce au déclassement par la suite, hein, des années plus tard, de deux coureurs. Donc, voilà, c'est moi, je suis le Tour de France depuis des années. Je suis né en 82, comme ça vous saurez tout. Le dernier podium datait de 81. Donc c'est la première fois que j'ai l'occasion de voir un coureur cycliste belge lever les bras sur le podium à Paris. C'est à Nice, pas de bol. Mais voilà, c'était quelque chose. Donc podium. Et sinon, pour me prendre un peu de hauteur et analyser ça de façon plus objective, je dirais ébouriffant. Ébouriffant parce que on en a eu pour toutes les couleurs, on en a vu dans tous les sens, avec des records assez astronomiques, avec des super performances, avec parfois aussi des grosses déceptions. En tout cas, c'est un tour qui aura fait et qui va faire parler de lui pendant les années à venir.
Oui, ben oui, et moi j'avais justement choisi historique comme mot. Historique, ben, parce que Cavendish, quand même, c'est quand même un
Oui.
fameux bout d'histoire. Historique parce que Binyam Girmay, c'est quand même un fameux bout d'histoire. Et historique, ben oui, parce que Pogacar, parce que le doublé, parce que tu l'as dit, des performances incroyables, par le nombre d'étapes qu'il a remportées en plus du général. Donc c'est clairement un tour qui va entrer dans l'histoire, hein, et qui restera, comme tu dis, pour de nombreuses années, je pense.
Oui, mais justement, Tadej Pogacar, forcément, on va parler de la performance du Slovène parce que elle est historique, tu viens de le rappeler, mais elle pose énormément de questions. C'est le débat qui était déjà présent, évidemment, après le Giro, qui est renforcé ici avec les prestations du Slovène sur le Tour de France. Qu'est-ce que tu penses globalement de sa prestation?
Mais en fait, alors, je vais être un peu provocateur, mais je m'étonne qu'on s'étonne, avec le s'étonne qui n'était même pas voulu d'ailleurs. Mais je veux dire, c'était attendu, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais finalement, c'était attendu qu'on ait un Pogacar archi-dominateur. Ben voilà, il l'a montré sur le vélo. Donc j'ai pas grand-chose à dire de sa performance en tant que telle. J'ai quand même un truc que j'aimerais vraiment souligner, parce que je trouve que avec le climat un peu délétère qui a eu autour de ce tour, et avec les belles performances de Pogacar sur des terrains où on le remarque beaucoup, on n'a peut-être pas assez parlé des descentes. Là, on a parlé, hein, mais peut-être pas assez. Franchement, enfin, ça doit peut-être se trouver sur Internet. Je serais hyper curieux de voir combien de temps il a pris en descente durant ces 3 semaines. C'est hallucinant. Hallucinant. Il y a beaucoup d'écarts qui se creusaient dans les descentes. Donc voilà, après, pour le reste, c'était attendu, je pense.
Oui, c'est d'ailleurs aussi, je pense, le point de vue d'Alexis, hein. Alexis qui nous explique un petit peu ici ce qu'il pense de la prestation de Pogacar et du débat que forcément ça suscite.
Bah, salut à toutes et à tous, salut Damien, salut Romain. Alors pour le doublé historique, la performance historique de Pogacar, bah oui, on est vraiment sur quelque chose d'historique, hein, parce qu'on c'est seulement le 8e coureur de l'histoire à réaliser ce doublé. Et en plus de ça, il le réalise avec une facilité vraiment déconcertante. Donc historique, oui, d'autant plus que voilà, on peut vraiment se poser la question, est-ce qu'on n'est pas là face au plus grand talent de l'histoire, ou en tout cas l'un des plus grands talents de l'histoire du cyclisme? Maintenant, c'est un doublé un peu à double tranchant, parce qu'au lieu de se poser cette question-là, on voit beaucoup que les gens se posent la question du dopage, et ne se posent même pas la question d'ailleurs, ils accusent directement le dopage. Alors les interrogations, les suspicions, moi je les comprends totalement, je les partage d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, et je pense que c'est assez normal de se poser des questions de par l'histoire du cyclisme, mais aussi l'histoire du sport en règle générale, d'autant plus quand on voit les chiffres que Pogacar développe, hein, les fameux watts par kilo dont je parle souvent. Clairement, on est sûr, depuis en tout cas que les performances sont chiffrées et analysées, on est vraiment de très très loin sur la plus grande performance, notamment au plateau de Bay, de l'histoire du cyclisme. Et donc on peut se poser la question, d'autant plus qu'il produit ses chiffres et ses performances avec une facilité totalement déconcertante. Il y a une image absolument remarquable de la 20e étape où on le voit lui arriver bouche fermée après une accélération phénoménale, tandis que Remco Evenepoel arrive plus d'une minute plus tard en souffrance totale. Donc ça interroge. Maintenant, en tout temps et en tout sport, il y a toujours eu des immenses talents, des gars beaucoup plus forts que les autres. Et c'est pas du tout à exclure que Tadej Pogacar en fasse partie. C'est dommage qu'on écarte directement cette hypothèse, d'autant plus que moi, ce que j'aime pas, il y a plusieurs choses que j'aime pas dans ces accusations. D'abord, le fait qu'on accuse directement sans aucune nuance, hein, et sans aucune preuve. Et ensuite, qu'on accuse toujours le vainqueur. Tadej Pogacar est peut-être tout simplement le meilleur. Pourquoi l'accuser lui alors que le 20e, alors je sais pas qui est 20e, hein, donc je ne le vise pas personnellement, mais il n'y a aucune preuve que Pogacar, tout simplement parce qu'il est plus fort, soit plus dopé que le 20e. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Et puis voilà, il y a 2 ans, on se souvient, Pogacar était la victime de l'escroquerie Visma, et maintenant c'est un peu l'inverse, on va limite maintenant dire que Vingegaard est le propre dans l'histoire. Donc c'est vraiment cyclique, c'est le meilleur qui est accusé, les autres le sont beaucoup moins. Pour Vingegaard, il l'est toujours un petit peu, hein, mais bon, on va pas accuser les autres, ça c'est quelque chose qui me dérange. Et un autre point qui me dérange, et ça je pense que Romain Damien, vous allez en parler, c'est que on écarte totalement, alors on en parle encore, mais on écarte totalement tous les arguments qui viennent expliquer l'amélioration des performances. Alors ça fait rire maintenant les gens, mais ils sont réels, ces arguments. Alors ils ne sont pas suffisants pour prouver vraiment l'extrême facilité de Pogacar. C'est pas juste parce qu'il a un bon vélo et un bon entraînement qu'il sait faire 40 minutes à 6,8 watts par kilo à la bouche fermée, c'est clair. Mais ces arguments-là, ils sont pas à balayer d'une main. Ils sont réels et ils sont peut-être même trop développés. Il faut peut-être réfléchir aussi à l'efficacité des vélos et le rendement qui rendent le sport un peu moins compliqué que ce que ça ne l'était
Et
avant.
donc on vient d'entendre Alexis, Romain, que penses-tu toi finalement de ça? Est-ce que tu es d'accord avec Alexis ou pas?
Oui, ben Alexis dit beaucoup de choses intéressantes, à commencer par le fait qu'effectivement, il y a la présomption d'innocence, c'est un principe supérieur en droit, et qui sommes-nous pour accuser? On n'a aucune preuve, donc on ne peut pas le faire. Après, Alexis le dit aussi, c'est sain, en fait, il est sain de se poser des questions. Il est sain et il est même légitime quand on voit effectivement, chiffre à l'appui, les chiffres de ses performances, de ses records. Après, comme le dit Alexis encore, les facteurs explicatifs, moi je suis un grand défenseur de ça. Et c'est vrai, ça fait peut-être rire aujourd'hui, mais il y a quand même toute une série de facteurs, c'est pas deux, trois facteurs, c'est toute une série de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi d'une année à l'autre, on peut avoir une amélioration des performances et pourquoi surtout comparé avec les années précédentes, à mon sens, n'est plus pertinent. Je vais juste évoquer trois types de facteurs. Il y a d'abord les facteurs technologiques. Tout le monde l'a dit, les vélos aujourd'hui sont plus rapides que ceux d'il y a 5 ans. Je ne parle même pas de ceux d'il y a 20 ans. Mais je vais mettre dans la technologie également tout ce qui est nutrition, tout ce qui est récupération. Les équipes aujourd'hui sont à la pointe, effectivement, de ce type. Il y a deux technologies qui permettent d'améliorer les performances. Il y a comme deuxième type de facteur les facteurs environnementaux. Je pense que toute personne qui nous écoute et qui fait un peu de vélo régulièrement et qui consulte son Strava aura remarqué que si le vent est de face ou si le vent est de dos, même sur une côte de 2 kilomètres, on peut parfois perdre à jambes égales 30-40 secondes. C'est pas du flanc. Il y a aussi la surface. On sait que ASO, alors pas forcément dans les dernières ascensions, mais ASO de plus en plus fait reconstruire les routes. Fait rebitumer les routes où vont passer les coureurs. Et donc, il y a une fondamentale différence entre les revêtements aujourd'hui qui sont lisses, qui sont nickel, et les routes comme nous, on a dans les Ardennes, qui sont dégueulasses, c'est ce qu'on retrouvait partout dans la montagne avant. Et enfin, il y a un troisième type de facteur, ce sont ce que moi, j'appellerais les facteurs organisationnels. Je veux parler notamment des profils des étapes, de la dynamique aussi des étapes, de ce qui se passe pendant les étapes. Et pour illustrer ceci, pour illustrer tout ça, pour vous montrer comme quoi, selon moi, ça a une réelle importance, je voudrais m'arrêter 30 secondes sur la montée du Pladadai. La montée du Pladadai, donc c'était l'arrivée de l'étape numéro 14 cette année. Pogacar bat le record de Lance Armstrong. Donc c'est-à-dire que cette année-ci, Pogacar monte en 25 minutes et 8 secondes le Pladadai, alors que Armstrong l'avait monté en 27 minutes et 4 secondes en 2001. Le record jusque-là, puisque Armstrong était déchu de tous ses records, le record jusque-là, c'était de 1993. Il était détenu par Zenon Yaskula et Tony Rominger en 27 minutes et 6 secondes. Donc 2 secondes de plus que l'Américain et donc 1 minute et 58 secondes de plus que Pogacar. Alors on va dire, ouais, c'est énorme. Ok, d'accord. Mais prenons un instant l'étape dont on parle. Au moment où Tadej Pogacar arrive au pied du Plat-Tadej, donc à Saint-Lary-Soulan, il a parcouru 142 km et a dû gravir deux cols dans le peloton. D'accord? 142 km. Au moment où Lance Armstrong, qui battait le précédent record, arrive au pied de Saint-Lary, enfin au pied de Plat-Tadej, il a parcouru 184 km et a gravi cinq cols. Et en 1993, quand c'est Rominger et Jaskula, ils arrivent avec 220 km dans les pattes avant de grimper le Plat-Tadej et ils ont déjà monté quatre cols. Donc, je ne dis pas que rien que ça peut expliquer la performance de Pogacar, mais il est indéniable que ce genre de facteur va avoir une incidence sur cette performance. Et je terminerai en disant que on a beaucoup axé sur Pogacar et ce fameux record au Plat-Tadej. Ils sont 13 cette année ici à avoir battu le record. Ils sont 13, parmi les 13, il y a Derek Gee. Je veux dire, personne aujourd'hui n'a un jour suspecté Gee d'être dopé ou son équipe Israel Premier Tech de faire du dopage à grande échelle. Donc ça prouve bien que les performances globales du peloton, elles s'améliorent d'année en année avec toute une série de facteurs qui sont technologiques, que en fonction de l'environnement, ben, ça peut bouger et bien évidemment en fonction aussi du type de profil de l'étape et de la dynamique de course.
Et c'est très intéressant d'ailleurs ce que tu as amené sur ton dernier point. Le reste aussi, mais je veux dire, le reste, c'est des choses qui me parlaient déjà que le dernier point. Vraiment, j'apprends des choses. Donc, oui, c'est vrai, c'est intéressant. C'est un truc auquel on ne pense pas nécessairement. D'abord, juste pour réagir sur le fait que tu dis ils sont 13, Alexis, il a aussi dit c'est toujours le premier qui est visé. 2023, c'était Vingegaard, le méchant dopé. Pogacar, c'était le gentil. Tout le monde aimait bien Pogacar parce qu'il essayait de battre le méchant Vingegaard dopé. Cette année, c'est Pogacar. Au printemps, c'était Mathieu Van Der Poel dopé après ses numéros. Je veux dire, c'est un petit peu pénible que ça tombe toujours sur le premier. En fait, c'est un cyclisme avec plein de performances extraordinaires qui s'améliorent. On va y revenir, notamment pour des raisons que tu as citées et certainement d'autres également. Mais tombons sur plus de mecs alors. Enfin, tombons même pas sur plus de mecs, tombons sur le cyclisme en lui-même. Ou pas, hein. Moi je tombe pas dessus, mais je veux dire. Si on fait le choix de tomber dans ce truc de dopage et d'accusation, etc., voilà, tombons sur le cyclisme comme il devient et pas sur le vainqueur qui est le méchant de l'histoire. Avant de trop donner, avant de trop parler dopage, oui, je voulais faire un petit coup de gueule. Moi, ça m'a pourri. Mais quand je te dis ça m'a pourri, ça m'a pourri le tour. Vous l'avez peut-être remarqué, enfin, ceux qui nous écoutent et qui sont sur Twitter, toi et Alexis, vous l'avez peut-être vu aussi, je ne sais pas, j'y suis plus. J'y suis presque plus. Je passe de temps en temps 2 minutes voir et j'ouvre et je me dis, ben non, en fait, j'ai raison, plus y aller, je vais refermer. Alors oui, je peux masquer des comptes, mais au final, je vais pouvoir masquer énormément de comptes. Vous avez raison, Alexis et toi. Les doutes, c'est légitime. Mais là, on est dans un monde où tout s'inverse. Tu as parlé de la présomption d'innocence, c'est terminé. Ça, c'est terminé. On n'est plus à un stade de doute. On est dans un temps maintenant où on accuse totalement, où c'est. La charge de la preuve est totalement retournée. C'est finalement à Pogacar ici, mais peu importe qui finalement, de prouver son innocence. Mais non, prouver qu'il est dopé, les gars. Le gars, enfin, mon avis est qu'il est propre au niveau licite. On y reviendra plus tard. Mais mon avis est qu'il ne fait rien d'illégal. Je vois pas pourquoi le gars doit être emmerdé à devoir convaincre tout le monde de son honnêteté au final. Donc non, c'est quelque chose qui m'embête. C'est quelque chose qui m'embête parce qu'en plus, ça vient de suiveurs lambda. Et ça vient même de certains journalistes qui ont une belle plume, qui s'expriment très bien. Et du coup, on donne beaucoup de crédibilité à ces gens-là, alors que finalement, ils n'en ont pas plus que certains autres, hein, qui, eux, défendent un cyclisme propre, je vais le dire comme ça. Je ne sais pas si ce terme doit être utilisé comme ça, mais. Donc ça m'agace un petit peu, franchement. Ce climat, je dis voilà, j'ai un groupe WhatsApp aussi où je parlais beaucoup avec des gens qui se retrouvent de différents horizons, mais en tout cas, le but de ce groupe WhatsApp, c'était le cyclisme. J'y vais plus. Ça parle que de dopage. Et honnêtement, je sais pas si tu as ressenti toi aussi ça autour de toi, mais j'ai eu l'impression qu'on n'a presque plus parlé vélo. Et voilà, et nous aussi, hein, je dis ça alors qu'on va parler de ça, mais parce que le sujet est presque obligatoire. Je pense que on a envie d'en parler, et je pense aussi, peut-être que je me trompe et que je nous donne trop d'importance, mais que les gens qui nous écoutent ont quand même envie qu'on aborde ce sujet, donc je pense qu'on doit le faire. Mais voilà, au bout d'un moment, moi j'aime bien le cyclisme, quoi. J'ai pas envie de parler de page H24, quoi. Je sais pas si je vais me faire que des amis, mais arrêtez de me pourrir la vie, putain, avec votre dopage.
Ben,
Ça devient plus pénible.
d'autant que, enfin, moi j'ai pris l'exemple du plat d'Adé. Le lendemain, il y avait cette montée du plateau de Baie où il y a un nouveau record, effectivement, qui pose des questions. Quand on pose des questions, on doit pouvoir aussi entendre des réponses. Et là, tu as une réponse aussi
Oui,
à apporter.
je sais pas si j'ai une réponse, parce que très clairement, ne m'attaquez pas là-dessus, ça vaut vraiment ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais ma première réflexion, et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, c'est bon, 98, parce qu'on parle donc du temps de Pantani qui était en 98, 2024, c'est quand même 26 ans d'écart. Je me suis dit, tiens, juste comme ça pour le fun, je vais aller voir dans quelques sports, hein, j'ai pas fait le tour de 15 sports, le meilleur temps qui était d'application, je vais dire en 98, et le meilleur temps de nos jours. Et donc je suis allé voir, je prends mes feuilles, hein, ça je ne connais pas par cœur, je suis allé voir en natation par exemple, j'ai regardé le 100 mètres et le 400 mètres, à peu de choses près on gagne la même chose, on a gagné 23 km heure, 23, 0,23 km heure, d'accord? Ok. En athlétisme, sur le 100 mètres, 0,98 km heure, sur le marathon, 0,92 km heure, ben oui, on court plus vite qu'on nage, donc fatalement on gagne plus vite des kilomètres heure. Sur un Ironman, où on va mélanger un peu les disciplines, on a gagné 1,68 km heure. J'insiste vraiment, ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être pas exactement le même parcours et tout ça, hein, mais bon, voilà. Et donc, lui, Pogacar, c'était, pour le rappeler, 2,07 km heure. Donc, déjà, plus on prend un moyen de locomotion, si je peux le dire ainsi, en tout cas, la manière dont on se déplace, un moyen qui va vite, bah, les chiffres, fatalement, sont exponentiels en termes de kilomètres heure. Donc, au final, je me dis, oui, alors, il y a eu des évolutions, et on reparlera de plein de raisons, il y a eu des évolutions dans tous ces sports aussi. Les chaussures pour les sprinteurs, je ne suis pas un expert en athlétisme, hein, mais j'imagine qu'il y a des gars là-dessus. En natation, il y avait eu des combinaisons qui avaient fait grand bruit à un moment donné. Voilà. Et après, j'ai alors un contre-exemple, je vais moi-même en athlétisme sur le 100 mètres. Certes, pardon, on a gagné 0,98 km heure, mais ça ne bouge plus depuis 2009, je dis une bêtise. Usain Bolt, ça fait longtemps. Oui, mais c'est Usain Bolt. Et un truc que j'ai pas dit tantôt, c'est que, et Alexis l'a un petit peu évoqué d'ailleurs, lui, c'est que Pogacar, pour moi, ben, c'est Michael Jordan, c'est Usain Bolt, c'est Ayrton Senna, c'est Roger Federer, c'est qui vous voulez, enfin voilà. Mais pour moi, on est sur un énorme crack. Et moi, je préfère me réjouir. En fait, je me dis, waouh, la chance que j'ai de suivre le vélo quand il y a un mec pareil, quoi. Moi, j'ai regretté les anciens champions de ne pas avoir connu ces mecs-là, les Eddy Merckx, les Hinault, enfin tous ces mecs-là. J'aurais voulu voir ce cyclisme avec ces grands champions. Mais là, j'ai Pogacar, je suis super content. Voilà, pour moi, c'est un des cracks de sa génération. Et alors, ben, pour mes chiffres, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on voit quand même que les performances, c'est inévitable. C'est inévitable. Il y a de la recherche qui est plus poussé partout. Allez, je vais prendre du foot. J'ai pas de chiffres au foot, mais quand tu voyais l'époque, alors ça va parler que aux Belges et encore pas à tous les Belges. Mais quand tu voyais les Bertoncello et tout ça qui buvaient leur bière avant d'aller jouer un match, ben oui, c'est plus possible maintenant. Mais c'est sûr, dans tous les sports, ça va être comme ça.
Attention, hein, la bière sur Tour de France, on sait que depuis maintenant 12 mois, c'est un sujet qui peut être sensible.
C'est vrai.
Maintenant, c'est vrai que comme tu dis, on n'accusera certainement pas, que ce soit Pogacar ou n'importe qui d'ailleurs, on le dit, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas se poser des questions. Et je pense qu'on serait naïf, effectivement, de croire que toutes les équipes ont le même niveau de préparation, le même niveau de matériel, le même niveau de nutrition. Autrement dit, toujours sans être naïf, il y a forcément des équipes, des coureurs qui ont quelque chose que d'autres n'ont pas. Et là, je pense qu'Alexis a son avis aussi sur la question et sur ce que tu as cité tantôt comme étant finalement une forme de dopage licite, puisque le dopage, ben, on en a déjà parlé dans le petit plateau, le dopage, c'est quelque chose qui améliore la performance, ça n'a rien d'illégal. Dans le cas d'une compétition sportive, on entend par dopage la prise de produits interdits ou le recours à un mécanisme interdit pour justement améliorer cette performance. Et donc par rapport à ça, ben, on va peut-être écouter ce que Alexis a à dire.
Moi, j'ai déjà donné mon avis plusieurs fois. Le dopage illicite, j'y crois pas du tout. Est-ce que Pogacar et d'autres, hein, parce que comme je dis, il n'y a pas que lui qui devrait être interrogé. Est-ce que les coureurs prennent de l'EPO, par exemple? J'y crois pas une seule seconde. Maintenant, il faut prendre en compte la recherche et le développement, que ce soit sur le matériel, la nutrition et l'entraînement. Ça, je pense que Romain, Damien, vous allez en parler. Mais il y a aussi sur les zones grises. On parle des cétones. Qui sont donc ces compléments alimentaires, on ne sait pas encore très bien si c'est du dopage ou compléments alimentaires qui sont pris par les coureurs, notamment chez Soudal, chez Alpecin, chez Visma et autres, et chez UAE. Ça fait partie de cette zone grise parce que c'est sous enquête de l'UCI, mais il y a aussi d'autres points. On se souvient de Bahreïn qui prenait des médicaments pour la sclérose en plaques. Est-ce que les équipes, d'ailleurs moi j'en suis à peu près persuadé, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a cette recherche et développement aussi en termes chimiques, médicaux? Et les équipes qui ont le plus d'argent auront plus d'accès aux recherches et aux professionnels pour venir améliorer les performances de leurs coureurs de par une surmédication. Alors, ce serait du dopage légal, licite, parce qu'ils ne prendraient pas des produits interdits par les institutions, mais ça pose la question de l'éthique, du danger et de l'écart de performance que ça pourrait impacter, enfin, l'impact que ça aurait sur l'écart de performance entre les coureurs. D'autant plus qu'on parle ici de Pogacar qui, à mon sens, est un monstre absolu. Si après on lui donne des médicaments secrets, ça va ne faire qu'augmenter l'écart qu'il y a avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument enquêter selon moi. Je pense qu'il y a une surmédication et plus l'équipe va avoir de l'argent, plus elle aura accès à une recherche et développement à ce niveau-là, que ce soit sur, comme je disais, matériel, nutrition, entraînement, mais aussi sur d'éventuelles médications. Je n'accuse pas, encore une fois, je dis il ne faut pas accuser sans preuve, mais c'est quelque chose qui, pour moi, étant donné que c'est légal, j'ai vraiment du mal à écarter cette hypothèse et à me dire non, les équipes n'utilisent pas ces procédés-là, étant donné que c'est légal. Donc ça, c'est dommage, mais je trouve ça un peu fort, même si ce sera à proscrire et on peut le dénoncer, mais je trouve ça un peu exagéré de commencer à traiter quelqu'un de dopé s'il utilise des produits, des méthodes légales.
Voilà, ben, là-dessus, ça va pas vous étonner, je pense, mais on va se retrouver totalement avec Alexis. Je suis vraiment raccord avec ce qu'il dit. En fait, ça me semble même impensable d'imaginer qu'il n'y a pas de la recherche et développement sur des produits, mais toujours dans les trucs licites. En fait, c'est simple. Tu en as parlé tout à l'heure, Romain. On a commencé, on a fait attention à la nutrition. Puis on a regardé des compléments alimentaires, puis on a regardé des produits pour améliorer la récupération. Puis on a regardé. Et oui, on va aller de plus en plus loin. Et bien sûr qu'il va y avoir des trucs borderline, ça c'est inévitable. Donc je pense que la recherche et développement, elle se fait dans tous les domaines, dans le matériel, dans les produits, dans plein de choses finalement. Et voilà, oui, on n'est pas ici, même moi qui fais un coup de gueule, je ne suis pas en train de dire que les coureurs ils roulent à l'eau claire. Et je pense qu'il y a de la recherche et développement dans toutes les équipes. Après, chacun a le budget qu'il a. Mais oui, non, voilà, j'ai pas grand-chose finalement à rajouter à ce qu'Alexis a dit. Toi, peut-être, je pense que tu voulais parler des zones grises, peut-être.
Tout à fait. Donc Alexis, effectivement, mentionne les cétones, le recours à des médicaments contre la sclérose en plaques. On a beaucoup parlé durant ce Tour de France, alors ce n'est pas avéré, mais de l'inhalation de monoxyde de carbone, j'imagine, pour pouvoir simuler enfin, les effets de l'altitude tout au long des 3 semaines de course ici. Donc on est effectivement sur des choses un peu borderline. Et moi, je veux voir dans ces zones grises un énorme paradoxe qui vient d'autant plus encore renforcer, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis du cyclisme. Quel est ce paradoxe? On vient d'évoquer des médicaments qui sont pris dans des, normalement, des cas très particuliers, des produits qui ne sont pas encore très connus, sur lesquels l'UCI enquête, ou alors des produits ou des techniques qui sont au bord, pour ne pas dire qui dépassent le cadre éthique. Là, je ne parle pas au niveau du sport, je parle au niveau de la santé humaine, tout simplement. Et à contrario, dans ce même sport, on vous interdit de prendre une aspirine quand vous avez mal à la tête. Alors forcément, quand on vous dit prendre une aspirine parce qu'on a une migraine, l'aspirine, c'est le médicament que tout le monde peut avoir sans ordonnance chez son pharmacien, c'est le médicament que tout le monde a dans sa table de nuit. Donc si on vous dit En cyclisme pro, vous ne pouvez pas prendre une aspirine. Eh bien, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ben, tout ce qui est pire qu'une aspirine, forcément, c'est du dopage. Et donc, là, ça installe un paradoxe énormissime qui, je pense, renforce encore cette image de le cyclisme est en proie à un dopage au sens compétition sportive du terme, ce qui n'est pas le cas, je pense. En tout cas, on n'a pas les preuves aujourd'hui. Parce que si je reviens un instant sur Armstrong, dont on a parlé tantôt, Pantani ou la génération Festina, hein, donc les années fin années 90, début années 2000, quand on parlait de dopage organisé, c'était du dopage parce que les produits utilisés étaient illicites. C'était le PO qui était sur une liste de produits interdits. C'était des transfusions sanguines qui étaient interdites. Ici, je ne dis pas que prendre du monoxyde de carbone, si tant est que les coureurs le font, hein, est quelque chose de sain, de bon pour la santé, d'équitable. Je ne dis pas ça. Je dis juste que pour l'instant, ce n'est pas interdit. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait alors par rapport à ça?
Oui, mais avant de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça, je veux clairement, parce que il faut pas non plus que ça soit pas clair pour ceux qui nous écoutent, je te rejoins évidemment tout à fait sur le fait que c'est un problème. Moi, quand je dis arrêtez de parler dopage, c'est pas que je veux mettre ça sous le tapis. À partir du moment où on va commencer, alors je parle même pas de l'inéquité sportive, mais où on va commencer à parler de la santé des coureurs, bien sûr que c'est très grave. Et ce serait trop facile de dire. Bah, celui-là, il fait le choix finalement. Non, il fait pas le choix. Oui, il fait un choix, certes. Après, quand c'est généralisé dans un. D'abord, est-ce qu'ils savent tout ce qu'ils prennent et toutes les conséquences que ça a? Ça, c'est une chose, hein, ils ne sont pas médecins. Et deuxième chose, je veux dire, c'est ton métier, tu fais ça, enfin, c'est ta passion, c'est ton rêve, tu fais ça depuis chez les jeunes. Tu arrives dans ce milieu-là et tu dois dire, moi, je prends rien du tout et je claque la porte. Oui, c'est un choix, c'est vrai, finalement, c'est un choix, mais c'est pas un choix facile. Et donc, ça veut dire que on met la santé peut-être de coureurs en péril, un peu contre leur gré, si je peux dire ça. On leur met pas un revolver sur la tempe, mais voilà. Donc oui, ça, je voulais quand même réagir là-dessus. Après, effectivement, tu disais, mais qu'est-ce qu'on fait finalement pour améliorer cette solution? Ouais, je te propose de, encore une fois, d'abord commencer par écouter Alexis, et puis on réagira là-dessus après, hein.
Donc la solution serait de légiférer là-dessus. Au lieu de faire une liste de produits interdits, plutôt faire une liste de produits autorisés éventuellement. Je ne sais pas si c'est possible dans les faits, si c'est contrôlable dans les faits.
Oui, bah, encore une fois, en fait, je suis assez raccord avec ce qu'Alexis dit, et j'aime beaucoup, moi, l'idée d'une liste de produits autorisés plutôt que d'une liste de produits interdits. J'avais lu l'édito de Titouan sur le site Vélofuté, et c'est quelque chose qu'il proposait également dans son édito. Je pense que c'est une idée qui est partagée par finalement pas mal de monde. Il faut voir comment ça peut se mettre en pratique, si ça peut se mettre en pratique. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît assez comme idée.
Ouais. Moi, pour terminer peut-être sur cette question du dopage et ou en tous les cas de la domination extravagante de certains coureurs ou certaines équipes, j'ai encore un élément que je voulais vous partager. On en a aussi déjà parlé dans le petit plateau depuis le début de cette saison, c'est la répartition des forces en présence. On a vu un Nils Polite faire péter la moitié des grimpeurs dans l'école. Bah, on avait vu la même chose l'année passée, Christophe Laporte. On avait vu la même chose il y a 2 ans avec Wout van Aert. Donc, c'est pas nouveau que des coureurs comme ça, dans des collectifs hyper forts, fassent un taf qu'on n'attendait pas forcément. Mais là où il y a quelque chose de tout nouveau sur ce Tour de France, c'est que cette répartition des forces, enfin, cette répartition, cette concentration justement des forces, elle se retrouve dans les classements généraux. Et ça, c'est assez inédit. Et tantôt, j'ai dit que comparer une année avec une autre n'était pas nécessairement pertinent en termes de performance. Ben voilà, puisque c'est manifestement un jeu auquel on se prête beaucoup, je me suis prêté à ce jeu-là. Et je vais vous donner, allez, trois chiffres, en tous les cas, trois données. Cette année-ci, quand on regarde le classement final du Tour de France, dans les 8 premiers, on a 4 coéquipiers du top 3. Et je dis top 3 parce qu'on a Remco Evenepoel qui vient un peu s'immiscer entre les deux ahuris, deux monstres, Pogacar, Vingegaard, qu'on a suspecté de dopage l'année passée, Vingegaard pour Camp Blue, cette année-ci, Pogacar pour finalement en dessous de son œuvre. Mais donc, prenons Remco qui était entre ces deux-là et le reste du monde, on a donc quatre coéquipiers. Hein, c'est Almeida quatrième, Landa cinquième, Adam Yates sixième et Jorgensen huitième. Donc quatre coéquipiers qui viennent dans le top 8, des coéquipiers qui ont mené des trains, des coéquipiers qui souvent se relâchent en fin d'étape. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça augmente nécessairement cette idée de domination. D'une part, parce qu'il n'y a plus tellement la place pour les autres équipes, première chose. Et deuxièmement, parce que ben, on se rend compte que ceux qui pourraient peut-être rivaliser, ce sont leurs coéquipiers. Donc là, il y a peut-être effectivement quelque chose à aller chercher. On a parlé parfois de limiter les budgets, ça me semble compliqué. En tout cas, peut-être plus que limiter les budgets, peut-être penser à limiter les salaires, avoir un salary cap. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On avait déjà parlé dans une précédente émission. Pour vous donner un exemple de comparaison, l'année passée, il y avait un coéquipier dans le top 10. Adam Yates, toujours lui, troisième, on s'en rappelle. L'année avant, il y en avait un dans le top 10. Adam Yates, toujours, neuvième. Et en 2021, pour retrouver un coéquipier d'un des deux fantastiques, il fallait retomber à la 19e place. C'était Wout Van Aert qui avait fait 19e donc, de Tour de France 2021. Et en 2020, il y en avait un dans le top 10, c'était Tom Dumoulin, coéquipier de Vingegaard aussi, qui avait fait, je pense, 7e de mémoire. Donc ça montre bien qu'ici, il y a quelque chose qui se montre davantage en termes de domination collective. Peut-être aussi encore deux petits chiffres, toujours pour cette domination collective. Si on prend que 100 par équipe, très intéressant à voir aussi. UAE l'a dominé des pieds et de la tête, forcément, mais avec Visma derrière. Troisième cette année-ci, je vous invite à aller regarder, hein, c'est Soudal, 1h33 de UAE. On va encore dire Soudal, 1h33, alors qu'ils ont quand même le troisième et le cinquième du général. Donc, si on va chercher quelqu'un qui n'est pas dans ce top 3, c'est Ineos, qui est en quatrième à 1h34. Ineos, c'est quand même pas n'importe qui, c'est pas des peintres. Hein. L'année passée, si on regarde de nouveau ces écarts en termes de classement par équipe, on avait de nouveau UAE et Visma aux deux premières, enfin Visma et UAE aux deux premières places, et puis vous aviez Ineos troisième à 27 minutes. Quatrième, vous aviez Bahreïn à 28 minutes. Cinquième, la Groupama à 57 minutes. Donc là, les écarts étaient beaucoup plus resserrés avec les autres équipes, avec le reste du monde, comme on dit. Je continue, je redescends. Oui, et pardon, peut-être encore aussi pour 2023, la première équipe qui était, on va dire, à un niveau plus ou moins égal à Soudal 1h33, c'était AG2R qui était sixième, je pense, à 1h51. Donc si je redescends encore en arrière, en 22, 2022, bah, Ineos remportait ce classement par équipe avec Groupama deuxième à 37 minutes, Visma était quatrième, troisième pardon à 44 minutes et UAE n'était que sixième à 2h19 de Ineos. En 2021, Bahreïn était premier, IF était deuxième à 19 minutes et puis vous avez la Jumbo qui, enfin oui c'était Jumbo qui était troisième à 1h11 minutes et UAE était dixième à 2h38. Et je te mets 2020 puisque c'est là où on est dans les années donc Pogacar, Vingegaard. En 2020, Movistar premier. Jumbo deuxième à 18 minutes, Bahreïn troisième à 57 minutes, UAE était neuvième à 3h06 minutes de la Movistar. Donc, on voit très clairement qu'en 5 ans, la Visma peut être de façon moins impressionnante, en tout cas peut-être moins rapide, mais UAE est passé d'une équipe collectivement, même s'il y avait le vainqueur ou le deuxième du Tour de France dans son collectif, est passé d'une équipe presque lambda dans le classement par équipe à une équipe qui domine de la tête et des épaules toutes les autres. Donc ça encore, cette idée de domination est nettement renforcée et va forcément renforcer l'idée de dopage, de ceux qui ont plus que les autres, etc. Alors que peut-être tout simplement, ce qu'ils ont plus que les autres, ben, c'est le talent. Et comment est-ce qu'ils l'ont plus que les autres? Parce qu'ils ont l'argent. Et là, je pense qu'on fait le tour avec ce que disait Alexis.
Oui, bah oui, mais clairement, on revient tout... enfin, c'est un truc qu'on avait déjà évoqué aussi, pas avec l'action du page, mais l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, comme on dit, mais ça l'est très clairement. Trois mini-réflexions sur ce que tu viens de dire. La première, bah, je vais me répéter, je l'ai déjà dit dans un épisode, qui était l'épisode avec Cyril Saugrain, d'ailleurs, je pense, où je lui avais révélé toute ma tristesse d'avoir vu Roberto Heras partir à l'époque chez Lance Armstrong. Donc en fait, c'est quelque chose qui se faisait dans une équipe. peut-être deux, je n'ai plus de souvenirs, à hauteur d'un coureur. Mais c'est totalement différent que ce que tu dis, effectivement, que maintenant, avec une concentration incroyable. D'ailleurs, ici, même en dehors des classements, on l'avait dit dès le départ, c'était indécent UAE, on le savait. Deuxième petite réflexion, on pourrait te rétorquer, oui, mais le classement par équipe, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu d'échappée cette année, parce que ça se calcule sur les trois premiers chaque jour, blablabla. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'échappée? Parce que ces équipes que tu annonces ont la possibilité de contrôler des étapes, parce qu'ils ont une telle concentration de talent, pardon, qu'ils peuvent se permettre de contrôler pendant 3 semaines de Tour de France, ils peuvent contrôler toutes les étapes. Donc, je pense que même si on te répond ça, ben non, en fait, ton argumentaire y tient. Donc, voilà. Et alors, la troisième remarque, c'est un peu peut-être pour t'amuser et un peu pour taquiner nos voisins français. Groupama, ils sont à combien de minutes cette année alors? Parce que j'ai vu que tu les as cités 2, 3 années, mais
Écoute,
je
j'ai pas
n'ose
été
pas
voir,
regarder
mais
pour cette année.
j'ai les classements. Si tu m'accordes 15 secondes, je vais aller voir le classement que j'ai pratiquement sous les yeux. Groupama, ils sont loin cette année, hein.
Ah
Ils
bah
sont
oui.
beaucoup plus loin que d'habitude. Écoute, je ne les vois pas. Ils sont où? Ils ont terminé quand même, Groupama. Je suis bien en
Ils ont
2024.
terminé.
Oui, voilà, 14e. Il fallait en les trouver 14e à 5h25
Après, je
minutes.
taquine parce qu'ils ne méritent pas du tout la distinction, mais ils ont essayé. Ça n'allait
Bien
pas et
sûr.
ils ont essayé. Ils ne se sont
Ils n'avaient
pas
pas les jambes, mais
résignés, donc
ils se sont pas
voilà.
cachés, ça c'est
C'est
clair.
ça. Donc voilà,
C'est
c'est
clair.
juste pour la petite blagounette. Voilà.
Voilà, peut-être, je pense que ce Pogacar, on a fait le tour, et sur UAE, on a bien compris, ils ont ultra dominé ce Tour de France. C'est historique, c'est à la fois superbe et diablement questionnant. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Dans ce numéro. Par contre, on va quand même parler aussi un peu des autres. Et les autres, ça commence par ben, Vingegaard. On a déjà touché un mot de Jonas Vingegaard, qui était la toute grosse inconnue de Tour de France. Il était annoncé au départ, je pense, une semaine pile avant le grand départ à Florence. Qu'est-ce que tu as pensé de Vingegaard? Est-ce qu'il était là où on pouvait l'attendre? Est-ce qu'il t'a surpris ou est-ce qu'il t'a déçu?
Oui, non. Oui, celui qui dit qu'il l'a déçu. Enfin, bon, après, chacun a le droit à ses avis, mais non. En fait, et sans du tout repartir de la parenthèse de page, c'est pas dans ce sens que je le dis, moi, il m'a plus bluffé que Pogacar. Franchement, Vingegaard, on se rappelle d'où il vient, c'est énorme. Alors, oui, il y a un monde entre lui et Pogacar, mais la préparation qu'il a eue, la chute qu'il a connue. Donc, non, moi, il m'a totalement bluffé. Tous les jours, je me suis dit, ah, il y a un moment où il va quand même craquer. Oui, on voyait bien qu'il n'était pas au top de sa forme. Mais voilà, on reparlera de Remco plus tard. Moi, j'ai cru que Remco allait pouvoir, à un moment donné, aller chercher la deuxième place. J'imaginais vraiment que Vingegaard allait s'écrouler. En fait, non. Donc moi, il m'a vraiment bluffé. Pour tout ça, j'ai envie de dire bravo, champion. Après, ouais, j'aime pas Vingegaard, je suis désolé, hein, je vais le dire comme ça. Vingegaard, il m'a embêté un petit peu à 3. Pas quand il relaie pas Remco. Mais quand il peut distancer Remco, qu'il est avec Jorgensen, ils ne sont pas si loin finalement de l'arrivée, ils sont là tous les deux avec Pogacar. J'aurais aimé qu'il roule, alors après on me dit il n'y a pas d'intérêt, il ne roule que pour la victoire et donc il ne regarde pas Remco. Et honnêtement, avec le recul, oui, c'est vrai, parce que on l'a vu après se concentrer sur Remco, mais je pense qu'effectivement, quand c'est l'étape de 3, il ne se tracasse pas de Remco, il vise que la victoire. Donc oui, c'est vrai, ok, il peut ne pas rouler. Mais il pouvait aussi rouler, il n'avait rien à perdre, il avait son équipier qui était avec lui. Donc ça m'agace un peu. Et puis alors, le pire, le Lioran. Moi, je suis persuadé qu'il peut reprendre pas mal de temps à Pogacar ce jour-là. Hein. Il revient dessus, mais il peut le déposer déjà dans le sprint pour la bonne F là-haut de la bosse, et il est parti. Hein. Pour moi, il peut le lâcher déjà dans cette avant-dernière bosse, et alors dans la dernière, n'en parlons pas. Il se contente d'aller le battre au sprint pour que Vingegaard batte Pogacar au sprint. Dire que s'il avait voulu le distancer dans la montée, il l'aurait fait sans problème. Mais non, c'est ce que j'aime pas avec Vingegaard. Je suis vraiment désolé hein, pour ceux qui l'aiment bien, mais c'est le plan et rien que le plan, le fameux plan qui n'aura servi à rien. Alors il n'aurait pas gagné le tour hein, s'il avait attaqué Oloron. Et c'est du cyclisme, fais-le, t'es au-dessus, vas-y mon gars, propose-nous quelque chose. Et je vais terminer avec une toute petite note positive. Quel bonheur c'est de voir ce coureur contrer Remco Evenepoel. J'adore Remco, j'aurais préféré que Remco le distance. Hein. Mais là, voilà, il avait par contre la possibilité de se rasseoir, de se remettre dans la route Remco et de ne pas le distancer parce que bah, c'est bon, j'ai assez d'avance. Là, c'est ça que je veux voir de Vingegaard. Il le contre et il veut lui montrer, et il veut lui reprendre du temps. Et c'est comme ça que j'aimerais voir Vingegaard plus souvent, en fait.
C'est amusant parce que effectivement, c'est le seul moment, je pense, je peux me tromper, À part le sprint au Liran, c'est le seul moment où Vingegaard est en tête de la course. Sur tout ce Tour de France, c'est le seul moment où Vingegaard prend une initiative pour se porter devant, on va dire, ses autres rivaux. C'était pour contrer Remco, pas pour attaquer Pogacar. Parce que à aucun moment, il n'attaque Pogacar. Il le rejoint effectivement dans le dernier col, enfin l'avant-dernier col, donc celui du Pertus, dans l'étape du Liran, mais il n'attaque pas. Et donc du coup, ben, il y a un coureur, un seul qui a attaqué Pogacar sur ce Tour de France. Il l'a fait sur l'étape des chemins blancs. Il l'a encore fait, je ne sais plus dans quelle étape de montagne. C'est Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, troisième. J'en ai déjà touché un bref mot tout à l'heure. Je pense qu'on va peut-être faire réagir Alexis sur cette prestation de Remco, parce qu'on sait qu'Alexis est un grand supporter de Remco Evenepoel, et donc de voir un petit peu comment lui a perçu le tour de Remco.
Alors, en ce qui concerne Remco Evenepoel, moi je lui donne au moins un 9 sur 10, sachant que le seul malus que je pourrais lui donner, c'est le temps perdu sur la descente du Galibier. Alors il faut savoir aussi qu'à l'heure où j'enregistre, je n'ai pas encore vu le dernier chrono, celui de Nice, où je l'imagine faire deuxième derrière l'intouchable Pogacar. À part ça, Remco, moi je suis extrêmement fier de lui. Il a surpris son monde, je pense qu'il a prouvé au monde entier que c'était un coureur de grand tour et que c'était un des meilleurs coureurs de grand tour derrière les deux intouchables. Il a été fort partout, surtout là où on ne l'attendait pas. En très haute montagne, sur les enchaînements, sur l'altitude, sur les très très longs cols, les cols d'une heure, il a été meilleur que tous les autres grimpeurs, mis à part Pogacar et Jonas Vingegaard. Donc voilà, moi je suis extrêmement impressionné. Il a balayé toutes les critiques d'un revers de la main avec une facilité déconcertante. Ensuite, Remco Evenepoel, ben oui, il est encore relativement loin des deux extraterrestres, mais deux choses. Premièrement, je pense qu'il est beaucoup plus proche des deux extraterrestres que ce qu'on imaginait avant le Tour de France. Et deuxième chose, les deux extraterrestres, quand on voit justement les fameux chiffres, sont beaucoup plus hauts que ce qu'on attendait d'eux également. Donc non seulement eux sont plus forts qu'attendus, mais Remco est plus proche d'eux qu'attendu. Donc c'est dire le niveau de Remco Evenepoel. Voilà, et donc moi je suis extrêmement impressionné de lui. Troisième, c'est super, sachant que ben, on voit très bien, Vingegaard et Pogacar, ils progressent d'année en année. Pogacar, il n'a quasiment eu aucune broutille dans sa carrière. Remco Evenepoel, il en a eu pas mal. C'est vraiment la première fois qu'on le voit aussi performant en très haute montagne. Donc il va encore progresser, il est encore jeune. Et on attend la suite avec impatience. Moi, j'ai vraiment quasiment rien à redire sur sa performance. Il a géré, il a pas présumé de ses forces, il n'a pas été trop orgueilleux. Et même en communication, il a été très bon. Ce qui pouvait lui faire défaut un petit peu par le passé. Donc voilà, rien à redire, très fier de ses efforts. Il a été très intelligent et très, voilà, très, très bon dans sa gestion de son tour.
Ouais, donc on a compris, Alexis, ravi et fier de ce tour de Remco. C'est ton avis aussi, Damien?
Moi, je vais peut-être plus vous étonner. En fait, c'est peut-être logique, puisque je suis moins grand fan de la première heure, et puisque je croyais moins, ici de nous trois, c'est un secret pour personne, c'est moi qui croyais le moins en lui, bah, inévitablement, je peux être encore plus émerveillé que ce que l'a été Alexis, je pense. Donc oui, j'avais demandé une petite cote. Pourquoi j'ai demandé cette cote? Parce que normalement, on met pas ça, mais moi, je mets 10 sur 10. Bien sûr, Alexis a dit, il y a peut-être encore des progrès à faire au niveau de la descente, mais j'ai envie de donner cette cote sur les capacités que lui a par rapport aux capacités que les deux autres devant ont. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux? Ben rien. Moi, je trouve qu'il a été parfait. Il a été mature dans sa gestion. Il a eu le brin d'audace quand il fallait, parce que il n'a pas les moyens d'attaquer tout le temps, mais il a essayé une ou deux choses. Et c'est agréable. Et alors, là où il a peut-être gagné, alors ce n'est que moi, mais j'espère que c'est d'autres personnes aussi, je me suis surpris, moi, mais je me suis surpris, parce que j'aurais pas imaginé ça, à crier devant ma télé, « Allez Remco, vas-y Remco !» Alors que je suis fan de Pogacar, hein, et j'aurais voulu à un moment donné que Remco, il arrive, à la fin, je veux que ce soit Pogacar qui gagne, mais si Remco a pu lui donner un peu de fil à retordre, ou s'il a pu aller lui chipper une étape, j'aurais adoré ça. Je pense qu'il a pris pas mal, effectivement, en popularité, et voilà, j'aurais pu mettre 9,5 pour chipoter, mais 10, ça me semble très très bien. Si
Ah
toi,
oui,
tu dois
ça.
donner une cote, donc, hein.
Ah, écoute, je suis assez d'accord avec vous deux. Je pense qu'il fait le tour quasi parfait. Ça va lui donner énormément de. Ça va lui faire, je pense, énormément de bien pour le futur, parce que il a répondu aux attentes et donc aux critiques que beaucoup lui adressaient Et il a répondu aussi à beaucoup de questions. Hein. On se demandait, tiens, est-ce qu'il n'a pas un plafond de verre? Moi, je ne pense pas qu'on a vu de plafond de verre. Au contraire, on l'a vu. Je disais toujours, avant le tour, on espérait, en tant que Belge, le voir troisième, mais on s'attendait à ce que ce soit difficile. On n'imaginait pas réellement peut-être le voir troisième, on n'y croyait peut-être pas tellement. Et finalement, il l'a fait, et il l'a fait de façon magistrale. Il termine avec plus de 10 minutes d'avance sur le quatrième et un quart d'heure d'avance sur le premier qui vient d'une autre équipe finalement que une des trois fantastiques. Donc ça, c'était assez positif sur le vélo, mais aussi en dehors du vélo. On l'a vu détendu, faire des blagues. Faudra qu'on revoie un petit peu tout depuis le départ, peut-être depuis l'abandon de Roglic, ça serait quand même à voir. Mais c'est clair que il a été peut-être, peut-être de nouveau l'esprit Chauvin qui dit ça, mais il a été peut-être cette bulle rafraîchissante dans ce mano à mano entre les deux irréductibles. Et le fait de le voir, oui, hiérarchiquement, il était troisième, il n'était pas deuxième, on s'en est aperçu, même si effectivement, il y a deux, trois endroits où on aurait pu se dire, tiens, là, est-ce que. Mais c'était clairement le troisième des trois. Mais il a quand même souvent couru, non pas dans la roue des trois. Souvent, il a pris lui-même le lead, où il y avait Vingegaard dans sa roue, Pogacar un peu derrière. Il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché, tu l'as dit, il a même essayé à plusieurs moments. Moi, j'aurais envie de lui mettre, pour répondre à ta question, une cote de 9,5. Parce que je pense qu'il a fait tout à la perfection, à part 50 km ce tour. C'est dans l'étape des chemins blancs où, pour moi, c'est le plus fort. En tout cas, de ce qu'il donne, de ce que les autres donnent, c'est le plus fort. Quand il attaque dans la dernière bosse, à 60 mètres de l'arrivée, qu'on me dise, oui, Pogacar et Vingegaard ne doivent pas bouger parce qu'ils ont des coéquipiers. Ouais, ok. Sauf que le mec est quand même deuxième à moins 30 secondes. C'est Evenepoel, donc en escalité. Je pense que le mec démarre, tu dois le suivre si tu es Pogacar. D'autant que ses coéquipiers étaient derrière. Vingegaard a regardé les gens passer, il avait ses coéquipiers devant qui mettaient le train. Tout de suite, on a bien compris que ça n'allait pas revenir sur Remco. Et donc, c'est Pogacar qui fait l'effort avec Vingegaard dans la roue. Alors après, c'est le moment peut-être là où il fait l'erreur, c'est-à-dire que il n'est pas relayé. Et là, on sent le Remco agacé qu'on n'aime pas trop, qui montre ouvertement, qui fait des gestes, qui comprend pas, qui bon. Et du coup, ça lui a porté, enfin, ça aurait pu lui porter préjudice, parce que dans les 50 derniers kilomètres, du coup, il s'est un peu relevé. Il a compris que quoi qu'il arrive, il terminerait dans ce groupe avec Pogacar et Vingegaard, mais aussi avec Roglic, et que donc son but peut-être de prendre du temps sur un ou l'autre rivaux pour pouvoir asseoir le podium. Et encore, on n'était qu'à la 9e étape du tour, mais ça tombait à l'eau. Et du coup, dans les 50 derniers kilomètres, dans chaque chemin blanc, il n'est plus rentré juste dans la roue de Pogacar ou dans les 3-4 premiers. Il est rentré chaque fois dans le ventre mou, voire en queue de groupe. Et ça aurait pu lui jouer des tours. Hein. À deux, trois fois, il a dû remonter toute une partie du groupe. Il s'est retrouvé pied à terre, quand de l'autre côté, Vingegaard se retrouve avec Pogacar et avec Jorgensen. Et là, je te rejoins. Pourquoi est-ce que Pogacar ne relaie pas à ce moment-là? C'est le plan. Il faut pas perdre de temps. Oui, mais pas perdre de temps, c'est une chose. Mais comme on dit toujours, pour gagner, il faut oser perdre. Et là, sur ce coup-là, j'ai pas compris. Alors, tant mieux, hein, tant mieux pour nous, tant mieux pour les Belges, tant mieux pour Remco, évidemment. Mais ça aurait pu lui coûter. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai envie de dire 9,5 parce qu'on a eu ce petit côté qu'on lui connaît, son agacement qu'il doit encore pouvoir maîtriser, qu'il fait de mieux en mieux. Qui aurait pu jouer un tour, mais en dehors de ça, il a fait le tour parfait, je pense.
Oui. Donc, on peut dire que c'était un top Remco. Bah, pour continuer cet épisode, je vous proposais de citer quelques tops et quelques petites déceptions, histoire qu'on reste pas juste sur les 3-4 premiers du classement général. Bah, on va d'abord donner la parole à Alexis, qui a enregistré une petite capsule pour ses tops, et puis je te propose qu'on réagisse après ça.
Alors pour ce qui est des tops de ce grand tour, bah forcément il y en a beaucoup, hein. C'est un grand tour donc il y a beaucoup de coureurs qui s'illustrent. Donc je ne serai pas exhaustif, d'autant plus que j'ai pas envie de voler vos choix et vos débats. Mais forcément je vais commencer par les plus évidents, donc il y a des porteurs de maillots distinctifs et notamment ceux dont j'ai pas encore parlé. Donc j'ai envie de parler de Guirmay maintenant, qui non seulement a été très fort, voire injouable quand il fallait prendre des points, mais qui a aussi été très très rapide sur les sprints de place que j'attendais pas forcément. Donc bravo à lui. Trois victoires d'étape, c'est énorme. Et puis, évidemment, aussi Carapaz, qui a porté le maillot jaune, qui a complètement craqué pour le classement général, mais qui a su se relever pour être présent quasiment tout le temps et aller se battre pour ce maillot à poids. C'est toujours très chouette, comme l'année dernière, quand des coureurs très combatifs viennent prendre le maillot à poids, malgré le barème qui vient vraiment favoriser les coureurs de classement général. Alors, je fais une petite pause ici pour vous parler des autres. Ensuite, j'ai aussi envie de mettre en avant dans mes tops Victor Campenaerts, que j'ai rarement vu aussi fort. On l'a souvent vu fort, mais à ce point-là, c'est vraiment pas mal, parce que dès qu'il accélérait, on avait du mal dans sa roue derrière. Il a été chercher sa victoire d'étape, donc totalement mérité. Et puis, j'ai aussi envie de parler de Mikel Landa. Mikel Landa qui a été totalement dévoué à son leader, alors ça on pouvait l'attendre, mais à ce niveau-là, franchement, venir chercher la cinquième place, il a été utile à Remco sur toutes les deux dernières étapes, mais quand bien même, même les étapes d'avant, il était présent, il était au niveau et il va chercher une cinquième place bien méritée, et vivement la Volta pour lui. Et alors un dernier point pour les tops, j'ai envie de parler quand même de Romain Bardet qui va chercher son maillot jaune, qui s'est énormément illustré, qui vient même venir aider son ami Remco Evenepoel à la toute fin. Donc vraiment, il s'est beaucoup illustré pour son dernier grand tour. Il va chercher le maillot jaune et ça, c'est totalement mérité pour l'ensemble de sa carrière.
Alors Alexis parle de Bardet, c'était presque écrit ce maillot jaune pour son dernier tour. C'était fantastique, je suppose que c'est quelque chose qui t'a plu et que tu auras envie de mettre dans tes tops aussi, Damien.
Évidemment, tous ceux qui nous écoutent savent à quel point j'apprécie Romain Bardet. J'en ai déjà parlé plein de fois. Pour moi, il a tellement souffert de la comparaison avec Pinot. Donc, je suis super content. En plus, la manière était magnifique, hein. C'est vraiment un très beau final où on se demande si ça peut le faire ou pas. Il sort bien. Il a un super Frank Vandenbroucke aussi, d'ailleurs, il faut le mentionner. Oui, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais pour réagir sur ce que Alexis dit, il parle de Landa. Bien évidemment, hein, Landa est au top. Mais moi, j'ai envie de mettre toute la soudale parce que j'entends, oui, j'entends qu'on résume à Landa, hein, c'est le symbole de cette équipe. Mais au final, Ilan Van Wilder, on peut-être le trouver un tout petit peu décevant au départ, mais je trouve qu'il termine très bien le tour. Faut pas oublier que c'est son premier Tour de France aussi à Ilan. Je pense qu'il a fait le job et il m'écoutera pas, mais il serait content de m'entendre, puisque pour la petite histoire, il s'était un petit peu agacé qu'on critiquait l'équipe Soudal en disant à chaque fois Remco a pas d'équipe, Remco a pas d'équipe. Il n'était pas très content. Et je trouve que globalement, ils ont bien fait. Jan Hirt, je ne sais pas comment on le prononce, m'a vraiment bien plu sur la fin de ce tour. Donc globalement, c'était bon. Peut-être juste Lampaert un petit peu décevant, mais voilà. Pour une équipe qui n'est. Pour, je veux dire, pour un Remco qui n'avait pas d'équipe. Bon, ils auront dû vraiment présents, je pense. Hein. Après, difficile de ne pas être d'accord avec Alexis sur certains noms. Peut-être une petite réaction sur Binyam Girmay. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, finalement, ce tour de Bini?
Pour moi, c'est la grosse surprise. C'est la surprise parce que, alors, je ne dis pas que j'attendais que Philipsen devait être absolument maillot vert, mais si on m'avait demandé de citer des concurrents directs, j'aurais jamais cité Girmay. En fait, Girmay a montré de très très belles choses il y a 2 ans. Hein, rappelez-vous, vainqueur à Gent-Wevelgem d'une étape sur le Giro, et puis il prend le bouchon dans l'œil d'abandonner. Et après, je ne vais pas dire qu'on n'a plus vu, ce serait vache par rapport au garçon, mais il a été freiné d'une façon ou d'une autre dans sa carrière. Et ici, de nouveau, je ne pense pas que c'était attendu à ce niveau-là, mais il a cette première victoire qui le libère. Et puis, il était impressionnant, on l'a vu partout, dans les sprints massifs, dans les sprints inter. On a vu vraiment ce grand talent dont on nous parle depuis des années. Et puis, bah forcément, la prestation est d'autant plus belle qu'elle est historique. Un premier Africain sur le podium final à Paris avec ce maillot vert, c'est génial. Dans cette internationalisation du cyclisme, forcément, c'est génial. Et il n'y a qu'à voir la joie que ça a créé dans son pays, qui est loin d'être évident. Mais enfin, voilà, c'est chouette. Mais de manière générale, c'est vrai que les maillots distinctifs, cette année-ci, portent bien leur nom. Ils se sont tous distingués de façon assez extraordinaire, et notamment Richard Carapaz, qui nous a fait un petit peu ce qu'il avait fait sur la Vuelta, remportée par Remco, hein, où il avait été chercher 3 étapes en 2 et 3e semaine, le maillot à poids, parce que il s'était planté en début d'épreuve. Ici, il s'est pas planté en début d'épreuve, il a quand même porté le maillot jaune, mais directement, pour quelqu'un qui jouait le classement général, il s'est retrouvé à la rue dans le galibier. Mais Il n'a jamais abandonné et on l'a vu que lui sur toutes les étapes de montagne finalement. C'est aussi, j'imagine, un de tes coups de cœur, Carapace.
Oui, mais c'est dans mes coups de cœur, mais c'est aussi dans mes, ça n'existe pas, mais dans mes, je sais pas, mes smileys rigolés ou je sais pas comment on peut le dire. Ce mec, il a été extraordinairement fort, mais extraordinairement, pardon, mauvais dans sa manière de courir. C'était
Comme son équipe.
hallucinant. Comme son équipe, en fait, son équipe, j'aurais bien aimé aussi, en fait, vous demander de côté IF, c'est incroyable. Ils nous ont fait un tour où ils nous en ont mis plein les yeux, ils nous en ont mis partout, mais ils ont fait aussi des Movistar à tire-larigot. Donc, je sais pas, enfin, voilà. Mais oui, fatalement. Alors, petit truc, moi, je pense que Carapace, il jouait pas le général dès le départ. Alors, il s'est retrouvé là, ça m'a même étonné qu'il était près du maillot jaune, parce que je pense qu'il avait dit finalement qu'il jouerait pas le
Semblait
classement.
aussi.
Mais en tout cas, oui, bah, un bonheur de voir un coureur comme ça. Je suis partagé. Rappelle-toi, quand on avait fait la preview, j'avais dit, ouais, c'est un peu facile pour Carapaz de faire ça et de ne pas aller jouer un classement. Et après, tu verras que dans mes déceptions, je vais évoquer un mec, j'aurais voulu qu'il joue les étapes et pas le classement. Donc, je ne peux pas me contredire non plus. C'est vrai que c'est bien. En fait, ce qui m'embête un tout petit peu là-dedans, et ce n'est pas de la faute de Carapaz, c'est qu'alors je voudrais qu'il soit plusieurs de ce standing-là à faire ça. Tu vois, ça m'embête quand un Carapaz, qui est quand même un vainqueur de Grand Tour et de ça, est le seul, parce que dans ses concurrents qui ont fait ça beaucoup, il n'y avait personne digne de lui et de son palmarès et de son niveau, je trouve, tu vois. Voilà, mais l'Équatorien mérite tout à fait son maillot et je suis très content que ce soit lui qui l'ait plutôt que Pogacar ou encore
Bien
des mecs
sûr.
du général, quoi. Oui, ça fait vraiment plaisir. Après, il est aussi super combatif et j'aurais voulu te faire réagir là-dessus, parce que c'est un peu facile de mettre Abrahamsen dans les tops, mais on est obligé de le citer. J'ai vu que des gens s'indignent un petit peu de cette décision. Bon, si tu avais dû voter, je ne sais pas, tu l'as peut-être fait d'ailleurs. Tu votais pour qui, super combatif?
Ben, j'ai voté pour Carapace.
Ok.
J'ai voté pour Carapace parce que déjà, je suis déjà un grand amateur de ce coureur à la base. Après, ceux qui nous écoutent beaucoup savent que j'aime beaucoup les Inoue aussi. Donc voilà, c'est vrai que la différence pour moi, là où elle s'est jouée, c'est que Abrahamsen était monstrueux sur la première semaine de course. On n'a plus vu après. Carapace, on l'a bien vu puisqu'on l'a vu en jaune après 2 jours. Et puis surtout, Carapace, on l'a vu omniprésent sur les plus dures étapes en allant chercher sa victoire. Enfin, alors oui, j'entends que oui, mais justement, hein, dans les arguments qui étaient avancés pour Abrahamsen, enfin, en faveur d'Abrahamsen, il y avait notamment l'idée de se dire oui, mais justement, être combatif, c'est aussi parfois attaquer alors qu'on n'a aucune chance de gagner. Alors c'est super naïf, je suis désolé, mais enfin, je veux dire, il faut quand même penser les choses correctement. Je veux dire, Abrahamsen, il a animé les étapes, c'est vrai. Il s'est montré, il a fait des échappées publicitaires. Il aurait pu parfois passer pas très très loin d'une victoire ou de faire quelque chose. Il s'est battu, c'est vrai. Il était combatif, c'est vrai. Est-ce qu'il était plus que Pogacar, que Carapace? Je sais pas, je sais pas. Et enfin, voilà, Abrahamsen, tu vas peut-être en parler, tu pourras peut-être parler aussi d'un autre gars au même moment, mais c'est, j'ai envie de mettre dans ce même trio Oier Lazcano, qui est l'Espagnol de la Movistar, qu'on a beaucoup vu également à cheval, lui, sur l'ensemble du tour. On l'a moins vu dans les toutes dernières étapes, qui lui convenaient beaucoup moins, évidemment, mais moi, Lazcano, c'est le type qui a gagné la Classique Arène, mais qu'on attendrait de voir sur les Flandriennes, sur les pavés, et on l'a vu parfois aller faire des points dans des cols devant des godus et des machins pareils. C'est quelqu'un, là aussi, qui s'est illustré sur un parcours qui n'était pas forcément le sien, qui aurait mérité d'être récompensé d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas eu sa victoire d'étape, il n'a pas eu un milieu distinctif, il n'a pas eu un prix de super combatif, on n'en a même pas parlé. Mais je trouvais que, voilà, Oier Lazcano, dans ce trio Abrahamsen, Lazcano, Carapace, voilà, je trouve, les trois coureurs en dehors du classement général qui ont plus qu'animé, je trouve, ce Tour de France et que j'avais envie qu'on cite effectivement parmi ces tops.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, je t'aurais dit, en t'écoutant, je te trouvais au début un tout petit peu dur avec Abrahamsen. Puis tu as quand même dit, bon, oui, c'est vrai, il est quand même combatif. Parce que c'est super naïf, mais il s'est battu pour un maillot. Il savait qu'il n'allait pas le garder. Il s'est quand même battu pour aller chercher des petits points, pour le garder le plus longtemps possible. Il a fait du solo pour je ne sais pas combien de kilomètres, pour quoi, un point ou deux. Donc voilà, il a quand même cet esprit combatif. Oui, moi. Honnêtement, je t'aurais dit entre les deux, peu importe. Pour moi, je m'indignais ni d'un choix ni de l'autre. Et puis, je t'entends parler de l'Ascano. Bah, je vais te dire, si même l'Ascano avait été super combatif, ça ne m'aurait pas choqué. Hein. Et tu as raison, on n'en parle pas du tout assez. Parce qu'au final, bah, il n'a pas porté de maillot, il n'a pas gagné d'étape, il n'a pas donc. Ça a moins de retentissement que les deux autres, mais au final, il a beaucoup essayé sur un terrain. Alors, je ne sais pas si je dois dire un terrain qui n'est pas le sien, parce que quand tu vois son Dauphiné, en fait, je ne sais pas encore où il faut le mettre, l'Ascano, finalement, parce qu'il brille sur plein de terrains différents. Mais oui, effectivement. Moi, j'ai envie de mettre en top, et tu en as déjà parlé dans cet épisode, un tout autre type, pardon, de coureur, c'est Nils Polite. Nils Polite, alors de nouveau, il y en a qui connaissent, oh, Nils Polite, dopage, bref. J'ai même lu Nils Polite, il passait pas un pont d'autoroute. Putain, je sais pas où il habite le gars, mais les ponts d'autoroute sont sacrément costauds chez lui, hein, parce que c'est quand même un mec dans les classiques, sa grande carcasse, on l'a déjà vu plusieurs fois la monter, quoi. Oui, c'était pas des cols, on est bien d'accord, mais je suis pas surpris que Nils Polite puisse faire ça. Pour autant, je l'attendais peut-être quand même pas aussi fort, donc oui, il a été voilà, bien plus impressionnant que par exemple Tim Wellens, qui n'a pas été mauvais, pas du tout, qui n'a pas démérité.
On
Mais
n'a
qui
pas
a fait ce
beaucoup
qu'on
vu.
attendait de lui, quoi. Voilà, il n'a pas fait plus, alors que Nils Polite, quand même, ça a vraiment été le wagon avant la Dream Team, quoi.
Ouais, peut-être aussi par rapport à Nils Polite, Alexis ne le dit pas dans sa capsule, mais il relevait en fait sur Twitter hein, un truc aussi très intéressant, c'est que Nils Polite, contrairement aux autres qu'on dit, ouais, il fait péter des grimpeurs, oui, parce que Nils Polite sait qu'il cale son effort sur 20 minutes de montée de col et que après quoi qu'il arrive, il explosera et il terminera à une demi-heure. Là où les autres grimpeurs ne se mettent pas dans le rouge. Et donc explose ou en tous les cas cède du terrain. Et tous les grimpeurs qu'il a fait sauter, ils terminent pas derrière Polite à la fin de chaque étape. Hein. Donc il y a ça aussi qui vient de nouveau expliquer. Je dis pas qu'il y a que ça qui explique la performance de Polite, mais il y a ça qui vient aussi expliquer comment un Polite est à ce point fort dans un début de col. Polite n'a pas non plus fait tout le Tourmalet, puis tout la Ourcade dans 6 ans et puis les trois quarts du Bladadais. Hein. C'est toujours un peu et c'est ce qu'on avait
On a
déjà vu
toujours vu
avec.
ça.
Voilà.
On a toujours vu ça. Tu l'as
Tout
dit
à
avec
fait.
Laporte. Moi, je vais te citer. Alors, je n'ai pas d'image où il éparpille, mais je suis sûr que c'est déjà arrivé. Un Dylan Van Baarle. Un Dylan Van Baarle aussi, il a déjà fait des trucs, notamment chez Ineos. Je veux dire, voilà, on a toujours eu des mecs comme ça. C'est pas nouveau. Il faut savoir le faire. C'est pour ça que je les mets dans mes tops. Mais il faut pas non plus
Ouais.
crier pour tout hein, à la triche. Donc voilà, oui, voilà, Polite. J'ai encore quelques noms. Je vais peut-être te crier à politesse parce que je vais en parler très très brièvement et puis je te laisserai terminer. J'ai noté, c'est un petit peu pour le jeu de mots nul, mais je le pense quand même. G is the new G. Ouais, Derek G, c'est impossible de pas le mettre en top, même si je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu le Derek G du Giro où ça part dans tous les sens. Il a quand même essayé. Hein. À 3, il était devant, par exemple. Il n'a pas roulé défensif, je trouve. Il a quand même essayé quelques trucs. Et ouais, franchement, rassurez-vous tous. Hein, on regarde le cyclisme, on ne regarde pas que le Tour de France. Mais pour moi, son Dauphiné, c'était juste une question de forme où il était largement en avance sur les autres. Jamais j'ai imaginé que son Dauphiné annonçait un possible top 10 du Tour de France. Donc, je suis obligé d'en parler. Je vais citer Jasper Stuyven. Bon, je suis obligé, j'adore Jasper, mais en fait, pour de vrai, il a été costaud, très costaud. Je suis dégoûté pour son étape à 3, qu'il la méritait tellement. Lui, il tombe sur la course des 10 dernières années où le groupe derrière s'entend à merveille et jamais ne laisse partir, quoi. Il fallait que ça tombe juste quand c'est Stuyven qui allait chercher son étape du tour. Mais ça me fait d'autant plus plaisir, bien sûr, parce que j'aime le garçon, mais parce que lui aussi a connu une grave chute qui l'a privé d'un printemps alors qu'il n'avait jamais semblé aussi fort. Il dit merde quoi cette saison. Et paf, le revelà à un super niveau. Alors oui, ce sera peut-être pas tellement pour lui, mais ouais, si je crois qu'il serait content, par exemple, de faire un énorme boulot sur les JO, si ça sourit derrière, bah, il sera content, il sera fier de lui et il pourra l'être. Moi, j'ai hâte de le voir courir sur les JO, mais on aura encore le temps d'en reparler. Et alors, un dernier petit truc, j'ai mis Kampenaerts, c'est pas tellement pour Kampenaerts, c'est pour son émotion. C'est pour
Ah
son
oui.
émotion. Et j'ai envie de parler de l'émotion de manière plus globale, parce qu'on a vu aussi Remco qui craque, par exemple, devant les caméras tout à la fin du tour. J'aime ces coureurs qui ne se cachent pas trop et qui se montrent humains. Alors, est-ce que c'est parce que j'y attache plus d'importance? Est-ce que c'est parce qu'on a plus d'images qu'avant? Ou est-ce qu'il y a un vrai changement? Moi, ça m'a marqué, notamment avec Bennett, il y a déjà quelques années maintenant, qui avait pleuré. Et j'ai l'impression que les coureurs osent de plus en plus être eux-mêmes et se livrer comme ça. Et voilà, cette interview de Kampenaerts, elle était topissime.
et qu'il y a de plus en plus de pression aussi peut-être sur les coureurs et que
Effectivement.
c'est pas évident. C'est vrai que les larmes de Kampenaerts qui, je pense, avait passé la ligne d'arrivée depuis 17 secondes et qui dit il faut appeler ma femme, appeler un Belnel, et pour voir son petit garçon né qui a raconté, parce que l'interview aussi après est magique, hein, où il raconte que voilà, c'est une sorte de contrat que son équipe lui a promis, pardon, et n'a pas pu lui donner faute de sponsors et d'argent en suffisance. Et puis, 9 semaines de stage en altitude, alors que sa femme est enceinte et va accoucher. Elle vient accoucher d'ailleurs au pied de la Sierra Nevada pour qu'il puisse assister à la naissance. Enfin, c'est une histoire rocambolesque. Et donc, ce sont des émotions. On a souvent dit dans ce podcast, Le Petit Plateau, que c'est les émotions qu'on aime voir, et quand on voit certains coureurs avoir le masque, te regarder le plan en tête, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi, je sais que sur Twitter, je me suis fait allumer parce que j'ai dit que, effectivement, Vingegaard, c'était un robot, en fait. Et j'attendais que Vingegaard dise: Ouais, aujourd'hui, je n'avais pas les jambes. Non, c'était toujours pendant 10 jours. C'était non, je pensais perdre plus. Après, effectivement, Vingegaard revient d'une très grave blessure. On a beaucoup parlé de Vingegaard qui aurait été le plus touché dans cette fameuse chute au Pays Basque. Il y avait un autre gars qui était fortement touché aussi, Stef Kras. Stef Kras qui fait un très bon tour, hein, honnêtement, sachant qu'il revenait diminué, il n'était pas sûr non plus d'être au début du tour. J'ai presque cru à un moment qu'il serait le premier représentant de l'équipe française au classement général, et on sait que c'est quelque chose qui compte au sein de l'Hexagone. Et finalement, il termine pas très loin, hein, 3 minutes, je pense, de Félix Gall et à 6 minutes de Guillaume Martin, un truc comme ça.
Je me permets de t'interrompre. Alors d'abord, je vais dire la phrase qu'il faut dire. Vincent, du coup tordu, si tu nous écoutes, jouez avec excès, très mauvais. Faites bien attention quand vous jouez. Voilà, je suis petit pronostiqueur. Pour vous le dire, c'est à coup de cent ou quand je suis tout fou, je mets 2 €. Mais figure-toi, Stef Kras, je veux rebondir surtout pour Stef Kras justement. Moi, j'avais joué. Il y avait possibilité de jouer. Guillaume Martin finira devant Stef Kras au final. Et d'ailleurs, c'est en écoutant Vincent que j'ai eu cette idée, et j'étais totalement raccord avec lui. Steph Kras, déjà, il est malchanceux, il va pas très souvent au bout de ses grands tours. Et en plus, il vient d'un truc, il vient de traverser un truc absolument fou. Il était effectivement, comme tu as dit, touché. Il avait pas mal repris. Là, il avait fait une course, c'était Slovénie ou non? Enfin, je sais plus, je vais dire une bêtise. Mais en tout cas, il avait fait une course avant le tour où il était pas mal. Mais je me suis dit, sur la durée, en fait, ce que je pensais de Vingegaard, mais à un autre niveau. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à toi que je l'ai dit ou à Alexis, ou enfin, de toute façon, c'est un groupe commun. Pour moi, Steph Kras, il a fait une Vingegaard, mais à son niveau, quoi. Et donc, il m'a bluffé tout autant que Vingegaard, finalement. Et pardon de t'avoir coupé, je te rends donc la parole.
Non, mais j'allais finir sur Steph Kras, de toute façon, qui est effectivement tu résumes très bien ça, hein, le Vingegaard du coureur moyen, on peut dire ça comme ça, sans offense évidemment à Steph Kras, mais c'était très agréable de voir. Peut-être si juste un dernier nom, Anthony Turgis, pour sa victoire. Alors,
Oh
du
non,
coup, à
non,
la
je
place de
rigole, je
Steven,
rigole.
mais je suis très content parce que. Bon, déjà, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un profil de coureur que j'aime beaucoup. C'est un mec qui compte jamais les efforts. Ou alors, quand il le compte, il le fait de façon intelligente. On l'a vu à Troyes. Mais c'est quelqu'un qui part souvent à l'offensive et qui est rarement récompensé, souvent de la malchance. Et c'est quelqu'un qui a été, je trouve, arrêté dans son élan par le projet Total Energy qui est parti en vrille avec Peter Sagan. Qu'on se trompe pas, Peter Sagan moi je suis un grand fan de Sagan, c'est un des coureurs qui m'a donné envie de me remettre à fond derrière le vélo. Donc je vais pas brûler Sagan. Mais par contre, il faut pouvoir le reconnaître, le choix d'avoir tout axé sur Sagan, c'est-à-dire recruter les coéquipiers de Sagan, la marque de vélo de Sagan, les coachs de Sagan, et donc de créer à la fois cette petite équipe dans l'équipe chez Total Energy, mais aussi de créer ce focus complet sur Sagan, qui n'a absolument rien donné, ça a eu un effet doublement négatif. Premièrement, parce que l'image de Total Energy en a pris un coup, puisque, regardez, ils font ça ne marche pas. Mais surtout, tous les petits jeunes français qui étaient en plein essor se sont retrouvés arrêtés. Rappelez-vous, il y a 3-4 ans, avant que Sagan n'arrive, on parlait de qui parmi les Français pour aller remporter justement des courses comme l'Estrade, comme Paris-Roubaix, les Flandriennes. On avait Laporte et on avait Turgiste. C'était les deux Français qui montaient. Et Laporte a dû, entre guillemets, mettre, quoique, il se fait un palmarès aussi, hein, mais il a dû peut-être mettre effectivement certaines ambitions personnelles de côté pour pouvoir travailler pour d'autres sur certaines grandes courses. Ben, Turgis, c'était pareil. Il est passé complètement à travers pendant 2 ans. Et je pense que il n'est pas le seul. Hein. Vous allez prendre les Valentin Feron, peut-être aussi les Mathieu Burgaudeau, Paul Ourselin, tous ces gars-là. Il y avait une dynamique qui était plaisante. Je ne dis pas que j'étais fan, hein, mais qui était plaisante chez Total Energy, qui a complètement disparu pendant quelques années et qui revient maintenant. On a vu, et c'est les noms que j'ai cités ici pour les tops, on a vu un Jordan Gégat extraordinaire sur ce
Oui,
tour.
bien sûr.
Et voilà un gars, j'attends de voir un Émilien Janière, qui n'était pas sur le tour ici, mais qui va aussi certainement franchir les étapes. Donc on a ici une équipe qui n'a pas les moyens, il faut le reconnaître, de lutter avec les autres en termes de budget et autres, même avec un Uno X, hein, c'est plus possible. Mais par contre, ils ont la formation avec l'équipe vendue qui est derrière, ils ont un vivier, c'est ça qu'ils doivent faire, c'est ça qu'ils doivent réaliser en mettant en vitrine, en mettant en évidence des jeunes et en parvenant malgré tout à conserver les quelques meilleurs jeunes. C'est un peu ce que nous, à quoi on assiste finalement depuis 1 an ou 2 avec le retour de Stéphane Delhaut. Hein, donc un Français justement, à la tête de l'Autodestini, qui a décidé effectivement de laisser tomber l'ancienne génération, en tous les cas de même parfois la pousser dehors, pour mettre en avant cette formation, ces jeunes coureurs. Bon, ça n'a pas trop marché sur ce tour, quoique ce n'était pas forcément plus décevant que l'année passée. Mais donc voilà, c'est Turgis et Jegat pour cette équipe de Total Energy, dont on n'attendait rien finalement sur ce tour et qui était une des plus agréables parmi les équipes françaises à regarder.
Et d'ailleurs, Jordan Jegat, je ne sais pas si tu as vu, a même déjà eu sa chicane Jordan Jegat sur le Tour de France. Je ne sais pas si tu as vu
Ah
ça.
non, ça
C'est
j'ai
nos
pas vu.
copains de Sans Oreillettes qui étaient là
Ah
en
voilà.
présentiel, donc hein, sur les
Bravo
routes, et
à
qui avaient
eux.
fait la pancarte pour Jordan Jegat. Donc il y avait le virage Jegat qui est en train de se créer. On verra dans quelques années si ça prend de l'ampleur ou pas. Hein. Bon, voilà, la petite taquinerie, on leur passe le bonjour. Hein. Oui, ben alors. Il y a eu des tops, il y a toujours des petites déceptions. On n'aime jamais trop s'y attarder, mais on va quand même un petit peu en parler. Bah, ce que je te propose, comme à chaque fois, on va d'abord écouter Alexis, hein, qui a quand même, on le rappelle, pris le temps sur son temps de vacances de nous envoyer quelques capsules. Donc on va lui donner la primeur et puis on réagit derrière.
Bon, forcément, sur un grand tour, il y a beaucoup d'attentes, et qui dit attente dit parfois aussi déception. Donc là aussi, il y en a quelques-uns. Il y en a pas mal. J'ai envie de parler de, bah, évidemment, de Wout van Aert, hein, vous savez, mon idole entre guillemets, qui ça commence à être un petit peu inquiétant. Bon, on verra sur les Jeux Olympiques, évidemment, c'est ça son objectif. Mais d'autres coureurs ont chuté en même temps que lui ou après lui et sont totalement au niveau. Donc on attend de voir. J'espère qu'il était seulement en préparation. On verra bien ça. J'ai envie de parler d'Ilan Van Wilder aussi, hein, qui a été dévoué à Remco, qui a fait de son mieux, mais voilà, il a du mal à franchir le cap qu'on attend de lui. Et puis, autre déception, je dirais les échappés, ils y sont pour rien évidemment, mais c'est toujours dommage de voir un grand tour avec aussi peu de victoires des échappés. Et alors, en dernier point, peut-être l'équipe Bahreïn, parce qu'on en avait beaucoup parlé dans l'épisode preview, qui pour le coup est quand même assez décevante.
Voilà. Et Bahreïn, donc, pour Alexis. Bahreïn, on rappellera quand même qu'il y a eu pas mal de malades, le Covid notamment, avec Peyo Bilbao, Matteo Moric qui était aussi salement touché, visiblement, mais donc effectivement qui est passé un peu au travers. C'était aussi dans ta liste des flops?
Oui, parce que dans l'épisode preview, c'est moi qui en avais un peu parlé, et j'en attendais quand même beaucoup, et bon, ils ont été transparents. Buitrago sauve le top 10 de manière miraculeuse et peut-être pas sportive. On n'aura peut-être pas le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, Chicone te dira que c'était pas très sportif. Donc voilà, oui, c'est une.
Un
Vas-y.
bidon collé pour ceux qui n'ont pas vu la séquence filmée par après au soir de l'arrivée de je ne sais plus quelle étape où Ciccone lui reprochait d'avoir eu un vrai bidon collé, comme on appelle ça dans le jargon.
C'est ça, il lui dit, je t'ai vu, c'est pas sport. Donc, ouais, c'est bien que Chikon lui ait dit s'il l'a vu, moi je suis content. Voilà, c'est les latins qui parlent entre eux. Voilà, après, du coup, je vais partir sur une autre équipe, et c'est peut-être encore plus décevant. Bah, c'était l'équipe en forme. Pour moi, Decathlon est aussi décevant sur ce tour qu'il n'avait été enchanteur sur le Giro. On se rappelle, sur le Giro, c'était extraordinaire ce que Decathlon nous avait proposé. Et ici, patatras, Félix Gall, non. Sam Bennett, non. Bruno Armirail a sauvé un peu l'équipe en allant quelquefois à l'abordage et j'ai trouvé Bruno au niveau. Mais pour le reste, voilà. Un Prodhomme était pas mal, mais alors j'aurais aimé voir un Prodhomme tenter des choses, partir dans des échappées, etc. Donc, globalement, assez déçu de cette équipe. Alors, je vais te rendre la parole. Parce que je crois qu'on en aura un en commun. J'en sais rien, mais j'imagine qu'on aura un en commun. Mais je vais quand même donner mon flop principal. C'est parce que là, on était parti sur les équipes. Mon plus gros flop, sans aucune discussion possible sur ce Tour de France, je le donne aux commissaires qui ont donné l'amende à Julien Bernard pour avoir un peu fait la fête avec ses supporters et sa famille sur le chrono. Alors là,
Hallucinant.
hallucinant. Et pour moi, il y a eu des flops sur le côté sportif de quelques coureurs. Mais alors ça, en premier lieu, c'est... Comment est-ce qu'on peut donner une amende dans des conditions pareilles? Énorme flop pour les commissaires ce jour-là.
Je n'y pensais plus, mais effectivement, je crois que ça a choqué ben, l'ensemble du monde du cyclisme. Honnêtement, il n'y a pas un coureur, un manager qui n'a pas réagi en disant que c'est que ça, ou même dans les anciens coureurs.
Mais c'est
C'est
le
quelque
vélo
chose
qu'on
qui était...
aime. Tu parlais il n'y a pas tellement longtemps, ici, il y a quelques minutes, des émotions. Mais enfin, allez, il met personne en danger, c'est super beau à voir, c'est agréable, c'est ça le vélo. En fait, c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est un sport populaire, il y a de la proximité, il y a des beaux gestes. Ne nous enlevez pas ça. Enfin, après, ils ne nous enlèveront pas, hein, parce que Julien Bernard a dit, bon, il n'y a pas de problème, ça va, pour faire ça, je veux bien payer, il n'y a pas de souci, quoi.
Ouais. Bah écoute, je vais te donner aussi mon plus gros flop. Bah, c'est Primoz Roglic.
Ah!
C'était le quatrième homme. Il n'a pas pu défendre ses chances pour deux chutes. Comme d'habitude, c'est Primoz Roglic. Je pense qu'il n'a plus terminé un Tour de France depuis 2020. Ou quand il termine deuxième des Repo Gacha à la planche des belles filles. Enfin, c'est vraiment triste pour le garçon. Je ne sais pas s'il aurait été à niveau. On ne le saura jamais. Est-ce qu'il le sera encore un jour? Je ne sais pas. Je pense que psychologiquement, ça va être très compliqué de se relever de tout ça. On sait que c'est quelqu'un qui psychologiquement est très très fort, justement. Hein. D'habitude, oui, j'allais dire, d'habitude, il se loupe sur le Tour de France parce qu'il tombe, parce qu'il abandonne ou parce qu'il passe à travers d'une étape et puis il va gagner la Vuelta. Mais la Vuelta, il ne la gagne plus depuis 2 ans. Et donc ici, est-ce qu'il sera dessus? J'en sais rien. Mais pour moi, c'est le flop parce que forcément, on a même oublié qu'il existait hein, en cette fin de Tour de France. On a même oublié qu'il existait. C'est assez dingue. C'est assez dingue.
T'as pas tort. D'ailleurs, tu vois, j'y pensais même plus. Après, ouais, c'est difficile de parler de flop quand c'est son chute, mais je l'avais dit, hein, qu'il devait prendre les petits trous, il m'a pas écouté. Hein. Écoute le petit plateau, Primoz, écoute le petit plateau, on a des bons conseils. Non, mais moi, le flop, je pensais que tu l'aurais cité lui, en plus gros flop, c'est quand même Carlos Rodriguez, mais parce que j'en entendais énormément. Franchement, je vais. Peut-être taper fort, mais je l'aurais voulu avec Remco, plus ou moins dans ces eaux-là. Je l'aurais voulu à la bagarre avec Remco pour la troisième place.
C'est
Peut-être
là
pas
qu'on
devant
l'attendait.
Remco, parce que Remco a été vraiment solide. Donc, ok, au départ, je m'étais dit que Carlos Rodriguez va terminer devant Remco. Quand je vois le tour de Remco, non, peut-être pas. Mais à la bagarre, si même pas totalement au classement général, parfois, un jour ou l'autre, sur un terrain qui est plus propice à l'espagnol, c'est ce qu'on disait en tout cas. Voilà, j'aurais voulu voir plus. Est-ce qu'il a été un peu malade? Est-ce qu'il a été un peu... Je ne sais pas. Sa préparation, tout me semblait, dans la preview, j'avais dit que pour moi, c'était le gars qui me semblait le plus au poids dans sa préparation, hors Pogacar, hein, parce que c'était linéaire, ça montait, c'était encourageant, il avait eu des résultats. Enfin, pour moi, c'était top. Mais donc oui, je suis très, très, très déçu finalement du tour de Carlos Rodriguez.
Oui, bah, de façon générale, les Ineos. Hein, alors, on sait depuis la saison 2 de la série Tour de France sur Netflix, certains le savaient sans doute déjà avant, mais que Tom Pidcock n'est certainement pas le plus simple à gérer dans une équipe. Est-ce qu'en interne, il y a eu du rififi? On ne sait pas. On sait que d'autres coureurs n'ont pas été bien physiquement. Hein, même un Bernal sur la fin, apparemment. A été aussi malade, donc il y a peut-être un virus aussi qui a circulé chez eux, mais de manière générale, chez Ineos, on n'a pas vu grand chose au final. Par rapport à
Non.
d'habitude, on se doutait qu'un Geraint Thomas arrivait pas au meilleur, enfin pas au top de sa forme après le Giro, mais voilà, ici c'était un petit peu dommage. Oui, je sais pas si tu as encore beaucoup d'autres flops.
J'ai deux noms qui sont pas vraiment des flops, qui sont des petites déceptions. J'ai Chicone. J'en avais parlé. En fait, je suis pas déçu de son niveau. Très très bon niveau, honnêtement. Pour l'italien, pour moi, c'est conforme à ce à quoi je peux m'attendre. Même le début de tour était même très 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 bon, plus que ce que je peux attendre. Mais en fait, c'est exactement, je pourrais dire mot pour mot, ce que j'ai dit pour Zana après le Giro. Ça me fait chier que des mecs comme ça, ils jouent un fond de top 10 pour finalement terminer 11e. D'ailleurs, Zana, je crois que c'était exactement la même histoire. Et que du coup, on les voit pas en chasseur d'étape alors qu'ils sont tellement plaisants comme ça. En chasseur d'étape, pour des poids, pour. En fait, quand je te parlais tantôt, Carapace, c'est dommage parce qu'il est tout seul, mais oui, putain, mettez-nous des mecs comme ça, Chicone, il doit faire ça, et peut-être qu'un bon classement viendra même avec, on n'en sait rien. Après, il avait cette volonté de se tester. Il y a eu Tao qui n'était pas bien, peut-être que si Tao avait été là, Chicone aurait eu d'autres libertés et un autre type de course, peut-être pas, peut-être qu'il aurait juste été équipier, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, c'est pas une déception sur le coureur, ses performances étaient vraiment bonnes. Mais voilà, ça ne me plaît pas trop. Et alors, je vais être encore plus surprenant peut-être dans ma dernière déception. De nouveau, c'est parce que je plaçais certainement beaucoup trop d'espoir en lui. Je suis un peu déçu du tour de Arm Van Hooke. Arm Van Hooke fait une bonne saison, on n'en parle pas, parce que c'est pas grandiose. Mais si vous allez sur PCS ou sur n'importe quel site qui donne les résultats depuis le début de saison, on a du bon Arm Van Hooke. Pas du Arm Van Hooke comme on l'espérait quand il était chez les jeunes, mais on a du bon Arm Van Hooke par rapport à ce qu'on a vu ces dernières saisons. Et donc je m'étais dit, bah, Arm Van Hooke, je vois la composition Lotto. Limite, c'est celui qui grimpe le mieux. Hein. Il y a Van Gils, mais limite pour moi, vraiment la montagne, je me dis, ah, c'est peut-être celui qui grimpe le mieux. Il n'a rien à perdre, il va pas rester lui tirer des bouts de droit sur le plat pour Arnaud Delis. Donc Arne Van Hooke, pour moi, j'étais parti dans l'idée, on va le voir beaucoup à l'avant, et il va peut-être pas claquer une étape, hein, mais il va faire des trucs sympas. Et en fait, non, on l'a presque pas vu, et là où, je sais pas s'il y allait plus d'une fois, il n'avait pas les jambes. Alors, bon, je vais pas tomber sur Arne Van Hooke, hein. On parle pas ici d'un coureur qui a, enfin, potentiel, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui est un très grand coureur du peloton, un très grand nom. Donc, pour les gens qui vont m'écouter, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il espérait d'Arm Van Hooke? Ben oui, il n'y a rien à dire sur Arm Van Hooke. Ben voilà.
Ben, Arne Van Hooke est quand même quelqu'un qui faisait des top 10 des étapes de haute montagne à la pédale, voire parfois mieux que top 10 hein, dans des courses comme Tour de Catalogne, des choses comme ça.
Sur l'Etna, je ne sais pas si tu te
Tout à
rappelles de sa
fait.
montée de
Quatrième, je
l'Etna.
pense.
Oui, et entre guillemets à la pédale, parce que c'est pas en échappée, il sort du groupe des favoris. Alors on le laisse certainement un peu aller, mais bon, voilà. Ouais, bon, ben, bref.
Après. Peut-être un facteur explicatif. Je pense que Van Hooke au départ n'était pas dans l'équipe qui devait faire le tour. Il devait
D'accord.
faire le tour de Hongrie. Et de mémoire, je crois que c'est Andreas Krohn qui a déclaré forfait pour cause de maladie. Et donc Van Hooke est venu,
D'accord.
je pense, quelques jours avant. Donc il n'était pas préparé nécessairement pour faire une course de 3 semaines. En tout cas, celle-ci. Faudra voir si c'était pas la Volta qui était dans son plan de course au départ. Ce qui peut expliquer. Le fait qu'on ne l'a pas du tout vu, on l'a surtout vu souvent devant les quatre Astana qui terminaient, souvent c'était lui qui était devant avec Gerben Theyssen. Je parle des Astana peut-être, moi c'est un dernier flop, alors c'est étonnant parce qu'on n'en a pas pris dans les tops, mais moi c'est le record. C'est
Ouais.
dur de dire que c'est un flop. Alors
Non,
pourquoi je dis que c'est un flop? Je n'ai rien contre Mark Cavendish. Je suis pas un fan de Mark Cavendish et c'est vrai que je fais partie de ces personnes, de ces suiveurs qui auraient préféré que le record appartienne à quelqu'un qui joue aussi un baroudeur en fait ou quelqu'un classement général ou autre. Bon après, c'est un sprinteur qui énorme respect pour sa longévité, énorme respect pour ses résultats, bien évidemment. C'est certainement le meilleur sprinteur de ce siècle, même si j'ai parfois pu remettre en doute la chose dans le petit plateau. Mais là où pour moi ça devient un flop, c'est que tu as évoqué en fait tout à l'heure comme ton plus gros flop l'attitude des commissaires vis-à-vis de Julien Bernard, et tu avais tout à fait raison. Moi je comprends pas qu'on ne déclasse pas un Mark Cavendish. On est tombé, parce que depuis de nouveau la série Netflix, on tombe sur un Jasper Philipsen à chaque sprint. Mais regardez un petit peu Cavendish quand il se place, les coups d'épaule, les coups
Ah
de
oui,
casque.
d'accord.
Je veux dire, là, je vous invite à revoir je pense les 3 derniers kilomètres d'étape qu'il gagne. Il doit être déclassé avant, hein, si on voulait vraiment. Je veux dire, ce mec est un danger. Alors, il a tout joué sur quelques étapes pour aller chercher ce record. Il a même prolongé sa carrière. Je pense qu'il arrête aujourd'hui, en tout cas, tant qu'il a dit que c'était sa dernière course. Mais je trouve que il y a un moment où, sincèrement, je me suis demandé si on a beaucoup parlé de l'importance du fric dans le cyclisme en début d'épisode. Je me suis sincèrement demandé à un moment s'il n'y avait pas une sorte d'accord tacite entre ASO, Netflix, je ne vais pas dire le peloton parce qu'il ne faudrait quand même pas déconner, mais de se dire, oh, si on pouvait avoir cette victoire de Cavendish, qu'est-ce que ce serait bankable d'avoir ce record qui tomberait, que beaucoup de gens voulaient, et qu'on s'est dit, ouais, c'est à ses limites, mais ok, on ferme les yeux. Parce qu'à côté de ça, on a déclassé d'autres coureurs pour des raisons beaucoup plus obscures. Hein. Et notamment, je pense qu'il y a un autre sprint où Cavendish fait cinquième ou quoi, mais il fait deux diagonales hallucinantes. Et puis finalement, la troisième fois, on va quand même le déclasser, je pense. Hein. Il y a une histoire comme ça. Enfin, j'ai plus revu ça dans le détail. Mais donc voilà, ça, je trouve que. Alors, c'est pas du tout ici Cavendish qui est un flop, mais je trouve que ça a parfois senti le côté un peu coup monté. Ce
Ah
qui
ouais.
n'est sans doute pas le cas. Je ne vais pas
Mais.
accuser ici, alors que je dis il y a de ça ici une demi-heure, qu'on ne peut pas accuser un coureur de dopage. Je ne vais pas accuser les organisateurs d'avoir, même pas trafiqué, mais d'avoir fermé les yeux. Je ne vais pas les accuser. Mais je trouve que voilà, c'est un peu dommage que ça arrive de cette façon-là, finalement.
Pour te dire vrai, je sais pas. Tu me donnes envie de regarder la victoire de Cavendish, en tout cas les derniers kilomètres, parce que sur le final, il part de droite, il va à gauche, mais il a tellement d'avance, il met personne en danger, ça me gêne pas. Franchement, ça me gêne pas du
Non,
tout.
dans le
Jamais
final,
j'irai
c'est
le
pas ça.
déclasser
C'est
pour ça.
vraiment
Ok.
la
Mais ça,
préparation
tu vois,
sprint.
j'ai pas fait attention. Et alors après, je t'avoue, ouais, honnêtement, j'ai pas fait gaffe. Oui, il a été déclassé une fois. C'est un peu le problème. Mais alors là, on serait parti, on pourrait y consacrer tout un épisode presque. Dans ces sprints, toutes les saisons, toutes les années, il y a des décisions qui sont un peu bizarres parce que des fois c'est très sévère par rapport à d'autres. Alors ça donne toujours l'impression que bah, celui-là il peut tout se permettre, celui-là il peut pas. Ah bah ici, pourquoi? J'ai déjà fait la même chose. Même les coureurs eux-mêmes, peut-être. Ah,
Bien
Philippe
sûr.
Sen va dire ouais, bah, moi ça l'année passée je pouvais, cette année je peux pas quoi. Tu vois? Enfin, ouais, c'est un gros 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 problème. Je sais pas comment on peut résoudre ça. Hein. Ou pas. Mais est-ce que tu avais fini tes flops? Parce qu'après j'ai une question. Oui. Mais ça, je te demande parce qu'en plus on est en plein dans le sprint. Donc on a fait tout un épisode qui touche tout doucement à sa fin. On a fait des tops, on a fait des flops. Je suis présent sur l'épisode et on n'a pas évoqué le tour d'Arnaud Delis. Donc j'aimerais quand même bien et je vais y joindre Maxime Van Gils parce que c'était quand même les deux grands espoirs de la Lotto. Combien ton avis brièvement sur la course des lotos, alors de Van Gils et de Delhi, mais aussi peut-être du pôle loto autour de ces garçons-là.
Oui, mais ça tombe bien qu'on l'évoque maintenant parce que pour moi, c'est pas un top, mais c'est pas non plus un flop. C'est-à-dire que c'était le premier tour de France de tous ces garçons, enfin, non, en tout cas d'Arnaud Delis, qui fait beaucoup de belles petites placettes. Là où on peut peut-être être un peu déçu, c'est qu'au final, il ne termine que sixième au classement du maillot vert, un classement où Pedersen n'était plus là, un classement que Van Aert a nié. Et donc, on peut se dire, tiens, oui, est-ce que c'est normal qu'il soit 40 points derrière un Anthony Turgis, par exemple, ou des choses comme ça. Il aurait été chercher la troisième place, par exemple, derrière Guirmay et Philipsen, ça aurait ramené des points UCI à l'auto, ça n'aurait pas été plus mal. Maintenant, de là à dire que c'est une déception, non, parce qu'il était là pour apprendre. Le plateau était quand même assez relevé. C'est vrai qu'il manquait. Il manquait Milan et Merlire, mais en dehors de ces deux-là, je veux dire, c'était quand même assez relevé. On pourrait citer aussi d'autres gars comme Kuyt ou autres, mais depuis le début de la saison, c'était tous les coureurs qui nous avaient impressionnés étaient présents, à part Milan et Merlire. Donc oui, il lui a pas manqué grand-chose sur certaines étapes, notamment celle de si je ne m'abuse, c'était celle de Colombey les deux églises, où c'était ce fameux sprint en longue montée, où il le reconnaît lui-même, il attend trop. Et quand il démarre, il est un peu coincé. Donc souvent, hein, le placement, mais il apprend. Et c'est inévitable, c'est évident qu'Arnaud Delis va venir un jour gagner l'étape sur le Tour de France. Donc, je peux pas être très déçu. Et sur Maxime Van Gils, il a eu un début de saison tellement tonitruant qu'on s'attendait à ce qu'il a gagné une étape facile finalement. Lui, il avait dit, il venait sur ce tour pour prendre le premier maillot jaune. Et c'était des étapes qui lui convenaient bien. Seulement voilà, il y a eu la magie Bardet qui a opéré. Et donc, il termine dans le bon groupe. Il termine deuxième, je pense, du sprint ou troisième du sprint. Enfin, il est avec les meilleurs. Donc, il n'a pas démérité. Et puis, par après, voilà, ça a été un peu moins bien. Est-ce qu'il n'a pas été aussi un peu malade? J'en sais rien. Enfin, donc, de nouveau, on pourrait dire, bah oui, peut-être déçu par rapport aux attentes que les résultats de ce début de saison avaient laissé entendre. Maintenant, tantôt, tu as cité AG2R aussi, qui était tonitruant depuis le début de la saison. Van Gils était tonitruant depuis le début de la saison. Bah, il est normal que ces mecs, à un moment, aient des coups où ils sont pas au top, top, top tout le temps non plus. Et
Pogacar est
puis,
tonitruant depuis le début de la saison.
voilà. Mais Pogacar a ce truc que les autres n'ont pas. Le talent ou
Le
plus, je vous
talent ou
renvoie au
autre
début
chose.
du
Non, c'était
de
trop tôt pour
l'épisode.
boucler la boucle, mais dommage, mais ça aurait bien.
Ben ouais. Mais non, voilà, non, sur le taux, je ne suis pas déçu. Je serais même peut-être un peu plus content parce que, y avait ce choix qui a été fait de mettre Ewan dehors, en tout cas de l'aider à partir. Ben en tout cas, l'équipe Lotto n'a pas fait moins bien sans Ewan cette année-ci.
A
Et
gagné une
pour
étape.
couronner le tout, ils vont chercher une étape avec Victor Campenaerts. Donc voilà, leur tour est réussi. Ils ont une étape, leur tour est réussi. Et il aurait pu être exceptionnel avec une deuxième victoire d'étape grâce à Adeli ou Van Gils, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave, il y a beaucoup d'autres. Parce que quand vous avez Pogacar qui gagne 6 étapes, que Guirmay et Philipsen gagnent quand même chacun 3 étapes, il reste plus beaucoup de place pour les autres. Et donc, dans les autres, on a quand même TotalEnergies qui va prendre une étape, on a Arkea qui va prendre une étape, Astana, enfin, c'est un tour des petites équipes finalement, en dehors des grands monstres. Et Lotto y a pris sa part de gâteau, donc bah, finalement, à l'ensemble de l'équipe, ils font un bon tour.
Moi sur Arnaud Delis, je trouve que c'est effectivement ni top ni flop. J'aurais plus tendance à aller vers le top que vers le flop si vraiment je dois le situer, parce que pour un premier tour, si on l'a toujours dit, enfin moi en tout cas je l'ai toujours dit, c'est plus un classic man qui a une bonne pointe de vitesse qu'un vrai sprinter. Et au final, il fait des placettes. Et en fait, il gagne pas, mais tu l'as dit, parce que c'est plus un classic man qu'un sprinter. Finalement, tu l'as dit, parce que ce qui pêche, c'est le placement et pas que. Il y a aussi, mais ça, par contre, à mon avis, il va l'apprendre très vite, des mauvaises décisions, pas la bonne décision au bon moment. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé sa fraîcheur aux interviews, mais comme d'habitude, c'est du Arnaud, quoi. J'aimais beaucoup l'écouter. Voilà, moi je trouve que pour un premier tour, c'est bien. Oui, on aurait espéré qu'il en claque une. Il y a l'étape que tu as dit, oui, il aurait peut-être pu s'il prend la bonne décision. Van Gils, j'ai un sentiment différent. Je suis pas déçu de Maxime, mais je suis déçu de la manière dont la Lotto a abordé les 2 premiers jours du tour. Alors oui, ça remonte déjà à il y a longtemps. En fait, ils n'ont pas voulu prendre la course en main parce qu'ils sont une petite équipe, entre guillemets, mais pour moi, ils devaient. Pour moi, ils devaient, parce que tu viens, tu as la possibilité avec un homme en super forme qui est sur un terrain où il peut aller choper le maillot jaune, et c'est pas normal. Bardet, c'est magnifique, et je suis super content qu'il l'ait eu, et c'était un beau numéro. Ce n'est pas normal qu'on laisse faire ça sur une première étape où il y a le maillot jaune au bout. Il n'y a pas que Lotto qui est responsable, bien évidemment. Hein. Mais à partir du moment où les autres prennent pas leurs responsabilités, j'aurais voulu que Lotto roule pour Van Gils. Donc voilà, c'est pas sur le garçon, c'est même pas sur les garçons en eux-mêmes de manière globale. J'ai eu cette pointe de déception sur les 2 premiers jours, mais peut-être que je veux que Lotto soit trop grand. Ça reste une petite équipe, entre guillemets. Mais voilà, j'étais un tout petit peu déçu par cette attitude-là. Et alors, quand même te donner un dernier nom, parce que pareil, on n'a pas évoqué ni dans les tops, ni dans les flops, et on a parlé notamment de sprint et de déclassement, Philipsen. Donc on fait un épisode, là, on parle depuis juste, presque, enfin, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures sur le Tour de France. On n'évoque pas Jasper Philipsen, qui a gagné 3 étapes. Enfin si, tu viens de le faire en citant, ah bah tel a gagné des étapes, mais quoi? Elle est Philipsen, on a presque l'impression que plus personne n'en parle, parce que bon... Il n'a pris que 3 étapes et pas le maillot vert, quoi, au final. Il a pris 3 étapes. Donc je sais pas.
Oui, c'est fou de se dire que c'est presque décevant pour lui. Je pense qu'il manque son maillot vert à son déclassement. Donc
Oui, c'est
ça a
ça.
déjà changé la donne aussi. Mais non, j'ai eu un peu de peine pour lui parce que, allez, dans le timing, on a quand même un Tour de France qui débute 20 jours après ou 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, après la diffusion de Netflix saison 2, qui est un truc grand public, que beaucoup de gens regardent et dans lequel on a un peu diabolisé le garçon. Alors je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de fond, de véritable, hein, bien sûr. Le gars n'est pas le plus sympathique, manifestement, qui soit au sein du peloton. Et beaucoup de gens lui reprochent de rouler un peu sans faire trop attention aux autres. Mais on l'a quand même diabolisé. Et sur les premiers étapes de sprint, il a des mouvements que 15 autres sprinteurs ont sur le même sprint, mais c'est lui qu'on va focaliser. Et il gagne pas. En plus, c'est Guirmay qui gagne, qui est pas le mec attendu. Il a fait le temps. Et donc, je me suis dit, ouh, ça risque d'être compliqué. Donc, il s'est quand même redressé. Moi, c'est ça que j'ai envie de saluer chez Philipsen, c'est il n'a pas laissé tomber, il n'a pas abandonné, et au final, bah oui, effectivement, il remporte 3 étapes. Il y a combien de sprinteurs, à part Guirmay et Sanessi, qui ont remporté d'autres étapes au sprint, ou en tout cas qui auraient voulu remporter 3 étapes, ils sont tous derrière. Donc voilà, c'est. Je trouve que c'est forcément quand on gagne 3 étapes, c'est réussi. Et alors, c'est amusant parce que, petite parenthèse ici, je ne sais pas si vous avez passé. Vu passer la phrase de Thomas de Ghent. Vous savez que j'aime beaucoup Thomas de Ghent. Sur les débats liés notamment à Pogacar, quand tu vois que Pogacar va voler, entre guillemets, la victoire à Vingegaard au sommet de la dernière étape, donc au col de la Couillole. C'est vrai qu'il se laisse emporter pendant 5 km et puis le saute sur les 200 derniers mètres. De Ghent faisait la réflexion, tiens, quand un sprinteur gagne 3 étapes, pourquoi est-ce qu'on ne revient jamais là-dessus? Ça veut dire que quoi, que Guirmay et Philipsen, oh, ils avaient remporté chacun 2 étapes, ils auraient pu laisser, oh ben non, ben tiens Arnaud, vas-y, va gagner ton étape, ou oh ben Dylan, hein, Groenewegen, tu n'as qu'une étape, ben, va en faire une deuxième. Tiens Fabio Jakobsen, oh oui, t'es un bon gars, allez, viens gagner une étape. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est un peu comme on est toujours en football, pour être gardien de but, il faut être un petit peu fou dans sa tête. Pour être sprinteur, il faut être un petit peu fou dans sa tête aussi. Et Philipsen, il est un petit peu fou, ce qui parfois peut agacer, peut déranger, mais au final, ça marche. Donc voilà, non, Tour de France réussi pour Philipsen.
Je vais me forcer à ne pas réagir sur le vol d'étape de Pogacar parce qu'on a déjà été long. Ceux qui veulent m'entendre, ils n'auront qu'à me demander et je leur dirai ce que j'en pense.
Voilà.
Mais
Peut-être
voilà.
un dernier, sauf si on en a encore après, mais un dernier nom que j'aurais voulu te citer, parce qu'on n'a pas du tout cité depuis le début, Lenny Martinez.
Ah ouais, alors là, j'aurais pu le mettre dans mes flops, mais c'est trop dur parce que. On ne sait pas, on parle même d'un choix presque punitif ou enfin tu vois, c'est un peu bizarre. Si je l'avais mis dans mes flops, c'est parce que quand on a annoncé sa sélection, je dis ouh, j'étais en régalade, je me dis super quoi, le gars, voilà un mec qui va aller à l'offensive chercher des étapes, peut-être un maillot à poids, enfin j'étais tout emballé. Donc j'aurais pu le mettre dans les flops pour ça. Au final, bon après, il était carbo, il avait fait une super grosse, je crois que normalement là il aurait dû être en phase de récup et on le fait enchaîner avec un tour. Je sais pas. En fait, j'ai pas trop envie de dire parce que ça va. Puisque je me suis emballé sans réfléchir, maintenant ça va faire trop facile de a posteriori dire bah oui, mais c'était n'importe quoi de l'envoyer. Alors que je pourrais peut-être le dire, hein, effectivement, c'était peut-être n'importe quoi, mais je sais pas. Même Carbo, après le voir à ce point-là, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut penser. Je sais pas si c'était punitif ou pas. Je sais pas si c'était. Il savait que Gaudu, ça n'irait pas. On va prendre un mec qui marche et on va essayer de faire quelque chose avec lui. Je sais pas comment ça se fait que Lenny Martinez est aussi loin, est-ce que c'est juste Carbo ou pas? C'est total
Est-ce que c'est
énigme sur tous les
oui.
points en fait.
Est-ce que c'est un choix de l'équipe? Est-ce que c'est un choix d'un manager? Est-ce que c'est un choix du sponsor? Tout ça, on n'a pas évidemment les éléments. Il y a quand même moi un truc qui m'a étonné. Alors, le fait qu'il soit carbonisé, oui, mais il est allé au bout du tour, c'est déjà très bien, c'est quand même à souligner.
Oui, c'est
Il
ce que
aurait pu
j'allais dire.
abandonner au bout d'un moment. Ne pas l'avoir vu ne fût-ce qu'une fois à l'avant, je veux dire, on l'a quand même plus souvent vu essayer de s'accrocher au Gruppetto, c'est quand même assez hallucinant. Mais à cause de ça, il fait 2 très bons chronos.
Oui, je vais te le dire, il
Et
termine.
donc, c'est voilà, c'est un flop, non, mais une terrible énigme.
Parce que si c'est punitif, alors là on rentre dans tous les possibles. Si c'est punitif, qui dit qu'en fait il avait peut-être les gens pour faire mieux, que vous voulez me faire chier à m'envoyer? Ça va, je vais venir, les gars, je vais faire acte de présence. Tu vois, on ne sait pas. Alors attention, moi je balance des trucs. C'est même pas spécialement ce que je pense, hein. Je balance des trucs comme ça, je veux pas qu'on se dise, ah ouais, ah, ce garçon, il est comme ça, qu'est-ce que j'en sais? Non. Mais je sais pas, on peut imaginer tout et son contraire, je pense, avec Lenny Martinez hein, et sa sélection et ses résultats ici.
Que ce soit Lenny Martinez pour sa sélection et ses résultats, que ce soit Pogacar pour sa domination et ses résultats. Ce Tour de France, on l'a dit, aura marqué l'histoire, mais surtout va continuer, je pense, de nourrir des débats et des énigmes tout au long des semaines et des mois à venir, même s'il va y a déjà y avoir assez rapidement d'autres rendez-vous avec les Jeux Olympiques où on a appris la non-participation, justement, de Tadej Pogacar. Sans doute que le garçon se réserve pour la Vuelta et va aller faire ce que moi j'avais pointé comme étant le pari improbable de la saison. Pogacar qui allait gagner les trois grands tours, je vous l'avais dit. On se reparle de ça dans quelques mois, mais avant ça, évidemment, on aura les Jeux Olympiques. Peut-être un petit mot du coup pour conclure là-dessus. Qu'est-ce que tu attends des Jeux Olympiques et qu'est-ce que les coureurs qu'on cite souvent parmi les favoris t'ont laissé comme impression sur ce Tour de France?
Alors, je vais quand même d'abord parler du chrono. En fait, j'ai dit, en plus, on va pas faire d'épisode dessus. Je suis juste curieux. Je sais pas comment Remco peut sortir de ce tour en fait, avec face à des mecs qui ont de la fraîcheur. Donc voilà, ce sera très intéressant. Bah, toujours les trois mêmes noms. Moi, je crois plus à Van Aert sur les chronos. Ça ne veut pas dire qu'il serait totalement largué. Hein. Je crois pas qu'il peut les inquiéter. Pour moi, c'est Ganna, Tarling, Remco et c'est tout. Et Kung, très beau rouleur, mais n'ira pas les inquiéter. Donc pour moi, c'est une bataille à trois. Voilà. Et alors pour la course en ligne, eh ben franchement. Quand je vois comment il termine, je suis déçu que Pogacar n'y aille pas. Alors, je sais pas, il a peut-être besoin de récup, mais moi, je. Bah, enfin, je sais pas, il était quand même encore plus fort que tous les autres. Donc, oui, alors maintenant, plus fort que tous les autres, c'est justement ce que j'aurais voulu voir et on ne saura pas. Plus fort que tous les autres, ceux qui se sont battus pour le classement général. Et on a Mathieu Van Der Poel qui a traversé presque en fantôme de nouveau le Tour de France. Je suis un peu dur, hein, on l'a vu essayer deux, trois petits trucs et il a encore fait le lead out. À l'une ou l'autre occasion pour Philipp Sen, mais presque comme un fantôme pour son statut. Alexis Aimerait m'entendre parler comme ça, puisque c'est presque ses mots là que je dis. Et ben bon, après, sur le profil, ben moi j'attends Mathieu Van Der Poel, énorme favori, et j'ai très peur pour la Belgique. On aura l'occasion d'en reparler, mais moi je trouve qu'on a donné la sélection trop tôt.
Ouais, ok, on aura l'occasion effectivement de revoir tout ça avec Alexis qui nous rejoindra, on l'espère, d'ici là. Il faut qu'il revienne de vacances à temps pour ça. En tous les cas, Damien, merci d'être venu discuter si longuement de ce Tour de France. Il y avait évidemment beaucoup de choses à dire. On espère que vous avez malgré tout aimé ce Tour de France et que vous aurez bien évidemment aimé aussi cet épisode du Petit Plateau que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming assez rapidement. Et puis, nous, on se fixe rendez-vous juste avant la course en ligne des JO. Damien, bonne fin de journée à toi et on se retrouve bientôt alors, hein. Salut tout le
Bonne soirée
monde!
à toi, bonne soirée à tout le monde, salut!